Bienvenue dans Entre deux notes, le podcast où on parle musique, création, bidouillage sonore, mais aussi galère, inspiration, tout ce qui fait la vie d'un musicien indépendant. Moi, c'est PKMWT et je suis avec...
Linvi.
Comme toujours. Salut mec, ça va ?
Ça va et toi ?
Super. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient tout le temps quand on fait du son, les DAW ou Digital Audio Workstation, ces fameux logiciels où on compose, on arrange, on mixe, bref, où on passe nos nuits. Linvi, toi tu bosses sur Logic Pro, moi sur Bitwig, et on va faire un petit tour d'horizon des DAW les plus courants, chacun avec ses qualités, ses pièges, et pour quel type de musicien ils sont adaptés. Mais avant ça, quoi de neuf, mon bon Linvi ?
Ah, bien, beaucoup de projets musicaux en ce moment, un remix, je vais pas encore parler du titre pour l'instant, un autre morceau personnel, et donc voilà, j'ai pas mal de projets, plus des collabs qui se préparent, donc voilà, tout va bien, c'est productif.
Ouais, c'est bien.
Beaucoup de découvertes musicales, donc voilà.
Bah, dis-moi, ton projet musical, finalement, maintenant, il s'est bien structuré depuis... un an et demi maintenant que tu as correctement commencé, on va dire, cette aventure.
Moins d'un an, ça fait en mai, c'était en mai, donc ça va faire un an bientôt, oui.
Un an. Et en un an, alors, comment s'est structuré ton projet musical ? Parce qu'on en a un peu parlé ensemble, comme ça, vite fait. Mais au final, comment maintenant il se développe et comment il s'est fixé ? Je ne sais pas si on peut déjà dire qu'il s'est fixé, mais vas-y, parle-moi-en un peu plus.
Écoute, pour mon projet musical à moi, alors ici, c'était au début, je me suis mis en tête de faire de l'afro, un peu influencé par Deep Forest dans la masterclass au Maroc. On l'a rencontré et on s'est rencontrés nous deux aussi. Je voulais faire un truc un peu plus original, un mélange d'électro-afro, mais c'était plutôt un choix conscient au début que j'ai fait. Et en fait, c'était une expérience très intéressante sur mes deux premiers morceaux, donc Riff Me Up et Warami, qui sont des morceaux afro-électro. Enfin, un afro-électro et l'autre afro-dance. Maintenant, j'avoue que le style en soi, je me vois pas faire toute ma carrière avec ça. Donc du coup, je vais me recentrer plus sur de l'électro pur et dur, ce que j'écoute moi-même. Parce que c'est vrai que j'écoute pas trop d'afro-électro moi-même. Donc c'était une expérience intéressante, mais voilà, mon style musical évolue et je vais faire quelque chose qui me ressemble un peu plus, où je vais pas trop faire de choix conscients, juste regarder où mes morceaux m'emmènent en fait. Et là, les deux morceaux que je suis en train de faire où je me suis pas ancré dans un style en particulier, bah, je fais vraiment, c'est de l'électro plutôt pur. Donc voilà.
Top. Et moi, mon parcours musical, c'était plus directement de la synthwave. Je suis attiré par ce genre musical depuis que je l'ai entendu pour la première fois, on va dire, avec les morceaux classiques que sont du Kavinsky, du Mitch Murder, du Time Cop ou des artistes de ce type-là. J'ai aussi écouté du College, qui est un petit peu l'inventeur de ce style, on va dire. Ce style électro, donc, qui reprend des sonorités des années 80. Surtout les trames de synthé, voire même directement le hardware, ou en tout cas les synthés en eux-mêmes, pour redonner cette touche vintage, un peu pop, un peu électro, avec beaucoup de sidechain, ce genre de choses. Donc, une musique maintenant relativement codifiée, qui reste niche malgré que des titres ou des gros titres à fort succès ont percé un petit peu sur toutes les ondes radio ces derniers temps. Donc l'année dernière, j'avais sorti un EP, On to the Past, qui était très axé dans ce style-là, plus dans les bases de la synthwave, donc les racines de la synthwave. Et cette année, je suis plus dans un projet où je vais mixer quelque chose de plus dans le temps présent, pour être tout à fait honnête, le temps présent qui est mes accointances avec le monde du Japon, on va dire. J'ai une grande passion pour ce pays que j'ai encore visité il y a pas si longtemps que ça. Et je blende un petit peu de la synthwave et de la city pop. City pop qui est le genre des années 80 du Japon. J'ai déjà sorti un titre, un deuxième en préparation. Peut-être un EP concept d'ici la fin de l'année. On verra si je reste dans ce genre-là, qui n'est pas évident, puisque on parle de japonais que je ne parle pas. Donc, c'est toujours difficile de blender une langue, en tout cas dans les paroles de chansons que j'utilise, une langue que je ne parle pas, mais que j'apprécie beaucoup, en tout cas une culture que j'aime bien mélanger dans mon projet artistique. Voilà. Très bien. Donc tout va bien de ton côté, de mon côté, ça avance aussi, donc c'est parfait. Je te propose de passer au sujet qui, aujourd'hui, les DAW, donc les Digital Audio Workstation, en français, comment on appelle ça?
Les stations audio numériques, attends, c'était quoi encore? Ouf, en français. Ah oui, les STAN.
Les STAN,
c'est ça.
Station audio numérique, ouais, je crois.
Non, et donc c'est ça, oui, voilà.
Ouais. Ok, bah voilà.
Bah, les termes en français, je travaille pas beaucoup avec.
Non, c'est vrai. Bon, voilà, Lindvi, je te propose un petit jeu de rôle. Voilà, moi je suis un musicien, j'ai fait 10 ans de guitare. Voilà, je sors à 5 ans, mes parents m'ont inscrit à un cours, j'ai fait de la guitare toute ma vie avec un prof de solfège qui m'a intégré dans divers groupes, je sais lire des partitions. Et je suis là, j'ai 10 ans de guitare sous les bras, je sais faire Highway to Hell et Stairway to Heaven, voilà, à la guitare. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis tout seul. J'ai pas forcément un groupe avec moi. Je sais lire des tablatures, je sais lire des partitions, mais j'ai envie de faire en sorte que ma musique soit plus riche. Comment je peux faire? Et quels outils je peux utiliser? Alors, on avait parlé, je crois, dans l'épisode 0 de studio ou home studio avec beaucoup de matériel et peut-être quelques logiciels, mais concrètement, comment je fais?
Alors, carte son, interface audio numérique externe pour brancher la guitare en jack dans la carte son et la carte son qui est branchée en USB dans l'ordinateur pour pouvoir enregistrer sa guitare. Donc voilà, après, et puis le fameux DAW dont on va parler ici pour enregistrer justement, vu que c'est un logiciel multipiste en fait, le DAW dans l'essentiel, et alors éventuellement rajouter d'autres instruments, etc.
Ouais, mais moi, dans Windows, j'ai le logiciel magnétophone. Ça suffit pas?
Ah. Ici, on ne sait pas gérer grand-chose avec ça. Donc, c'est pas un logiciel prévu pour traiter plusieurs instruments ou plusieurs pistes.
Ah, voilà. Donc en fait, grâce au DAW, en fait, je pourrais déjà avoir du multipiste.
C'est ça. Avoir une piste par instrument.
Voilà. Ok, je fais du multipiste avec mon DAW. Super. Donc... je peux enregistrer plusieurs pistes de guitare, alors. Ouais, ça va être très riche en guitare, dis-moi, cette musique que je vais enregistrer.
C'est ça. Maintenant, on peut enregistrer d'autres instruments ou programmer d'autres instruments. Donc, ici, si tu veux rajouter un synthétiseur, par exemple, ou rajouter des drums, comme si tu avais un batteur avec toi, eh bien, tu peux aussi rajouter une piste avec ces instruments-là et les programmer. Donc, sans forcément les jouer en live, parce que ici, ça demanderait un clavier en plus. Mais tu peux les programmer et programmer des drums à ton envie ou un synthétiseur si tu veux rajouter une couche d'un autre instrument. Donc voilà.
Bon, après je prends mon rôle un peu trop, comment dire, trop débutant, on va dire. Je pense qu'un guitariste qui a déjà eu 10 ans d'expérience, même dans sa jeunesse, connaît très certainement des logiciels comme GarageBand ou peut-être certains logiciels qu'on peut avoir sur mobile aussi, dans lequel effectivement, on peut s'accompagner ou on peut, par exemple, faire des covers très facilement. Je sais que je connais des amis musiciens qui font ça dans leur coin. Ils sont chez eux, ils adorent la guitare, ils adorent en faire. Et pour s'entraîner sur les morceaux que j'ai cités, par exemple, avant, c'est cool de s'entraîner comme ça, juste jouer de la guitare. Mais le mieux, c'est d'avoir le morceau derrière qui tourne et puis jouer par-dessus. Et ce genre de logiciel, comme des DAW ou autre, permet... soit effectivement de se dire je vais lancer certaines pistes qui vont imiter par exemple une batterie, qui vont imiter un synthé, qui vont imiter une voix, et par exemple une autre piste où il y a la guitare que j'enlève complètement et que je vais moi jouer en live ou que je vais enregistrer, réarranger, etc. Donc en fait un DAW est un vrai orchestrateur, on va dire, assez central dans la composition musicale, dans l'entraînement musical, dans le cover, dans plein de domaines différents.
Dans l'essentiel, c'est comme un logiciel de montage vidéo, sauf que c'est pour l'audio. Donc, on peut gérer plusieurs pistes et on peut les monter. Donc, gérer l'arrangement, déplacer dans la timeline, dans la ligne du temps, déplacer où intervient tel instrument. Donc, c'est vraiment comme un logiciel de montage vidéo, mais pour l'audio.
Mais, par contre, ces logiciels-là, ils ont l'air un petit peu d'être des joujoux, tu sais, avec des boutons partout et tout ça. C'est pas très pro, ça. Tu penses que c'est quand même des logiciels qui permettent de faire des trucs professionnels, d'après toi?
Lesquels?
Je sais pas. N'importe lequel. Je prends un FL Studio ou un GarageBand.
Oui, bah, tous les maintenant, ils correspondent à tous les standards et ce sont tous des logiciels pro, entre guillemets, sachant que ce qui est pro aussi, c'est l'utilisation qu'on en fera. Mais oui, ce sont tous des logiciels pour la plupart qui sont tout à fait valables et professionnels. Et donc ici, ça, c'est pas une question à se poser, à part peut-être Audacity, par exemple, qui est un logiciel assez basique, qui est gratuit open source, qui a tout le mérite d'exister pour des petits montages rapides, etc. Mais je veux dire, la plupart des autres logiciels, ils supportent les plugins, ils supportent tous les standards dont on aurait besoin, donc qu'on va détailler après. Donc il n'y a pas de... Voilà, ils sont tous plus ou moins qualitatifs, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc c'est sur d'autres points qu'ils se démarquent. Et la compétition est rude pour eux.
Effectivement, fini le temps où ces logiciels étaient plutôt réservés à des amateurs qui, quand ils venaient au studio avec leur maquette, devaient être réarrangés dans un Pro Tools ou un de ces logiciels, ou voire même une table de mix physique. Bref, on entend maintenant de plus en plus, ou en tout cas, c'est devenu courant, que ces logiciels sont très couramment utilisé même par les top 50 du classement. Je vais donner un exemple bête et méchant. Daft Punk utilisait Ableton 1.0. Voilà, pour dire. Dans ses lives ou dans ses compositions, ils utilisaient ce logiciel qui était encore à l'époque même pas courant du tout. Et ils ont fait des merveilles avec, bien entendu. Bien sûr, ils utilisaient du hardware aussi à côté. Ils utilisaient ces logiciels pour leur côté très automatique. Pour le côté live aussi, bien sûr. Voilà, maintenant beaucoup, beaucoup de compositeurs ou de producteurs, même dans le monde de l'électro, mais pas que, utilisent ces DAW depuis leur laptop, souvent, depuis n'importe où, des fois dans l'avion, en déplacement, etc. Moi-même, j'ai fait des compositions dans le train, à Tokyo, justement, dans le Shinkansen, très confortable de pouvoir se dire qu'on n'a pas besoin de trimballer tout un studio, des instruments, etc. Donc c'est quand même très confortable et on vit maintenant une époque où tous ces outils numériques sont suffisamment qualitatifs pour offrir quelque chose de propre, quelque chose
Oui, c'est
de...
ça. Je comprends ta question du début. Effectivement, on n'est plus obligé d'aller forcément dans un gros studio pour enregistrer un morceau de qualité. Bon, il faut quand même avoir du matériel de qualité, un certain matériel à avoir, mais dans l'absolu, on peut composer complètement un morceau professionnel sur son laptop avec son DAW, pour peu qu'on a les connaissances techniques et aussi voilà l'expérience et aussi quelques outils nécessaires comme la carte son et autres. Mais dans l'absolu, effectivement, dans un home studio, donc chez soi, on peut complètement composer un morceau qualitatif. Donc ça, il n'y a pas de souci.
Et les
Donc
studios, qu'on appelle plutôt des studios professionnels, reconnaissent maintenant ces logiciels depuis longtemps, et puis peut-être même les ont à disposition et même travaillent dessus, pourquoi pas.
oui.
On parle de Pro Tools parce que Pro Tools était un de ces logiciels qui imitait ou qui se voulait être vraiment une copie un petit peu d'une table de mix ou d'un workflow de studio, en fait. C'est pour ça que beaucoup sont dedans. On fait le comparatif, par exemple, avec Photoshop dans le monde de l'image ou voilà, ce genre de logiciel. Ben, disons que il y a aussi, bien sûr, dans le monde du DAW, des références, mais pas que. En fait, il y a, comme tu disais, tellement de concurrence maintenant que chacun a son petit DAW favori. Voilà.
C'est ça.
Donc l'évolution effectivement du DAW depuis 20 ans, j'aime bien dire 20 ans parce que moi j'ai commencé il y a à peu près une dizaine d'années, quinzaine d'années. Mais avant ça existait déjà. Je pense que ça existait même déjà sous Amiga, sous Commodore 64, sous ces choses-là. Il y avait déjà des proto-DAW, on va dire. En tout cas des logiciels qui permettaient de simuler des pistes. Ne serait-ce s'il n'y avait que 5-6 pistes et que ces pistes-là étaient des espèces de MIDI et des bleep-loops, des choses comme ça. C'était quand même déjà des DAW et certaines productions musicales ont pu être créées là-dessus. Voilà. Je pourrais pas en citer là, mais c'est vrai que quand on regarde un peu l'histoire de la musique, surtout électro, on retrouve des prodigies qui ont par exemple utilisé ces vieux outils. On retrouve des artistes électro divers et variés dans le monde de la trance, dans le monde de la techno aussi, à des années 90. qui utilisaient déjà un petit peu ces outils, pas complètement, mais ils utilisaient des parties de ces outils, ne serait-ce pour faire des effets particuliers ou des coupes particulières dans leur arrangement, etc. Voilà. Autre chose à dire là-dessus, avant qu'on passe à un peu une liste non exhaustive de Do.
Non, si on peut attaquer directement la liste, je pense.
Ouais, parce que en attaquant la liste, en tout cas une certaine liste, on va pas tous les énumérer, on complétera un petit peu avec des informations. Donc l'idée, c'est effectivement, on a notre PC ou Mac ou Linux, hein, ou en tout cas notre ordinateur, peut-être notre téléphone mobile, et puis on va se dire, bon bah maintenant j'ai besoin de ce logiciel-là qui va un petit peu orchestrer ma carte son, qui va interconnecter mes instruments, mes claviers MIDI, etc.
Oui, c'est ça que toute la difficulté va se présenter. C'est, il me faut un Do.
Lequel choisir ?
Lequel ? Alors, pour les Do, c'est vrai qu'on a plusieurs Do. Ici, on a Ableton Live, on a FL Studio qui sont dans les grands noms. On va redétailler ça après. On a Logic Pro, Beatwig, Pro Tools, Cubase, Reaper. Donc, on a pas mal de Do. Et alors, la difficulté quand on veut se mettre à enregistrer, c'est quel Do utiliser, parce qu'il y en a plusieurs. Et donc, voilà, ici, par rapport à Ableton Live, qu'est-ce que toi, tu aurais à dire? Parce que tu as déjà essayé Ableton Live. Donc, on va passer un peu en revue vite fait les différents Do, peut-être donner un peu l'expérience de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a utilisé nous-mêmes, voir un peu pourquoi choisir l'un plutôt l'autre, parce que c'est toute la difficulté. Et toi, vu que tu as déjà utilisé Ableton Live, peut-être, et qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, toi?
Bah, que je l'ai quitté pour aller vers Bitwig.
Bravo.
Alors, parlons de Bitwig. Non, je plaisante. Ah non, Ableton, c'est l'incontournable. L'incontournable, je veux dire, tu cherches, je pense, peut-être que si tu vas encore dans Google et que tu cherches, OK, quel Do je devrais prendre, je suis débutant, stop, Ableton. Tous les tutos sur le net, c'est Ableton. Enfin,
bah, ils ont le monopole, en tout cas.
Ils ont pas mal. Bon, je pense.
En grande partie, ils sont bien présents. Comme
grosse,
tu dis, on.
Ouais, une grosse part de marché, ouais. Ils ont aussi une force de frappe que tout le monde a imité ou tente d'imiter derrière, c'est que tu achètes un clavier MIDI, voire même un clavier semi-MIDI, semi-hardware, enfin bref, tu as une version d'Ableton livrée avec, tu vois, par exemple.
Ouais, ça a aidé.
Donc, tout de suite, là, tu dis, je veux un petit clavier pour accompagner ma guitare. Hein. Encore une fois, je suis le guitariste depuis 10 ans, je fais pas de guitare, hein, je précise. Mais c'était dans mon jeu de rôle. Donc, tu fais ta guitare. Et t'as envie d'un petit clavier quand même pour accompagner, voilà. Bah, t'achètes un petit clavier MIDI à, je sais pas moi, 50 euros. Puis t'as ta petite version 8 track, là, ou je sais pas comment elle s'appelle, ou Ableton Live Lite.
Oui,
je crois.
C'est ça.
Voilà. Qui te permet, plus ou moins gratuitement, déjà, d'avoir quasiment la majorité des fonctionnalités qu'Ableton propose. Voilà. C'est une version démo, mais même, ça va plus loin que la démo puisque, tu peux l'utiliser vraiment complètement. Je crois qu'il y a des limitations en termes de qualité, peut-être d'enregistrement, du nombre de pistes, ce genre de choses, mais sinon, pas quand même Ableton.
Ouais. C'est ça. Donc, le fait qu'il soit souvent accompagné quand on achète du matériel, un clavier ou une carte son, on a la licence qui est fournie avec. Et aussi, le côté qui a rendu un peu populaire, je pense, c'est que c'était l'un des premiers ou le premier qui a été vraiment orienté pour la performance live, comme c'est indiqué dans le nom. Où on peut vraiment jammer avec des bouts d'audio, des samples. Donc, on peut déclencher des loops qui vont tourner en boucle et on va pouvoir construire son morceau en jammant en live comme ça. Donc, qui est très utilisé soit pour jammer lors de la composition chez soi ou qui est utilisé pour les performances live comme Daft Punk que tu avais déjà mentionné avant. Donc, c'est vraiment, je crois, les deux points qui ont fait que Ableton s'est un peu démarqué quand il est arrivé. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, ou s'il y avait peut-être encore d'autres choses qui ont fait qu'ils se soient propagés comme ça.
Ah non, c'était effectivement la stabilité de leur moteur qui était vraiment fait pour le live.
Mm.
En live, ce qui est primordial, c'est d'avoir un outil qui, tu le branches, ça fonctionne.
C'est ça.
Voire même des options en cas de ça crash, que ça revienne assez vite. Peut-être des protections, que si tu as un plugin qui crash, c'est pas l'ensemble qui crash, ce genre de choses. Qui te permet aussi de tenir réveillé ton ordinateur et pas de le mettre en veille. C'est des petits détails, hein, mais c'est très important. Et bien sûr, cet outil était dans un focus de créateur musical qui a besoin de cet outil en live pour orchestrer différentes choses. Quand je dis orchestrer différentes choses, c'est par exemple faire comme un mini régisseur de son. Tu peux par exemple dire, écoute, moi, depuis mon Ableton, j'ai effectivement ma carte son d'entrée qui a certaines entrées, je peux y mettre des effets, je peux faire plein de choses. Moi, sur scène, directement en live, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. C'était un peu l'objectif de ça et ça a tellement été développé que maintenant on peut, avec différents devices un peu MIDI, divers et variés, avec de l'expressivité, avec des couleurs qui pop de partout, avec des faders, voilà, un peu de tout, quoi, des pads, comme on appelle ça aussi, bah, tout d'un coup, on peut déclencher vraiment de façon instinctive maintenant des samples. Je parlais effectivement de ces fameux pads, je parlais aussi de ces fameux faders, mais l'essentiel, c'était que quand tu y touches, quand tu les actives, il fallait une super réactivité dans le logiciel.
Donc, c'était aussi ça.
La latence qui était ultra importante dans ces logiciels. J'en ai encore fait les frais l'année dernière où je pensais avoir correctement configuré mon setup et en fait, j'avais une latence que j'étais tellement habitué à cette micro-latence que je la remarquais même plus. C'était un collègue producteur qui me formait un petit peu sur le mixage, qui l'avait remarqué lui et en fait, qui m'a aidé à le corriger. En fait, c'était un plugin désactivé en bout de piste qui... est-ce que je cite Ozone ? Non, je ne citerai pas Ozone. Mais un plugin désactivé en bout de piste qui...
Oui.
Il me faisait cette latence, voilà.
Donc, malgré tout, prenait quand même de la puissance, même en étant désactivé. Mais du coup, voilà, c'est donc ça. Effectivement, les avantages de Ableton, c'est le fait que ça a été pensé pour le live et pour le jam. Le fait que c'est, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est le plus stable pour les performances live. Donc, il y en a quelques-uns comme Logic Pro ou d'autres qui essayent de répliquer cette partie de jam avec les samples et les boucles qui ont introduit cette version-là. Mais c'est pas encore aussi stable ni aussi, je dirais, flexible ou autant de fonctionnalités que ce que apporte Ableton Live pour gérer un live, pour gérer une performance. Donc, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que Ableton Live reste le maître là-dessus. Et alors aussi, encore un dernier avantage que tu as déjà vite fait aborder il n'y a pas longtemps, donc c'est le fait que Ableton Live, avec son extension Max for Live, comme ça s'appelle, il y a plein de petits plugins, donc n'importe qui peut faire. Donc en gros, on peut faire soi-même ses propres synthés, ses propres plugins d'effets, en faisant du codage visuel. Et ça, c'est l'extension Max for Live, et donc ça permet en fait d'avoir plein de petites extensions pour des petits modules pour Ableton Live, pour bidouiller, pour expérimenter, et que voilà, que la communauté peut construire et partager avec les autres. Donc ça fait qu'il y a pléthore de plugins Max for Live, des devices, comme on appelle ça quand on parle concernant de Max for Live, parce que les plugins, c'est encore autre chose. Donc les devices Max for Live, on a vraiment pléthore de choses à tester et qui sont partagées, disponibles sur le net. Donc ça, c'est vraiment un avantage encore d'Ableton Live.
Alors moi, j'ai jamais utilisé réellement Max for Live, mais en gros, ce que tu me dis, c'est que Max for Live, c'est comme leur propre standard de VST, quoi. On va dire,
c'est ça, oui.
Ouais. Okay, exactement. C'est leur propre librairie de composants additionnels. Et alors, je sais pas si c'est plus ou moins accessible qu'un VST en termes de développement.
Ça dépend de la. Si en développement, oui, parce que c'est vraiment fait, c'est du codage visuel. Donc, du coup, quelqu'un qui a les notions en audio, mais qui n'est pas vraiment développeur, je pense qu'il a plus simple et c'est ça qui est fait. Il y a beaucoup de gens qui avec des simples tutos ou autres, qui ont déjà témoigné, qui ont dit voilà, j'ai besoin de ce petit plugin-là. J'ai regardé vite fait Max for Live comment ça fonctionnait et du coup, j'ai fait mon plugin sans aucune connaissance.
Ouais, c'était plus, je pense, un outil additionnel pour le producteur en lui-même qui se dit ok, moi, j'ai essuyé, rincé toutes les fonctionnalités d'Ableton. J'ai des VST qui font le job, mais là, il me faut quelque chose de particulier. Il me faut ma petite patte à moi et ce truc-là, ça me fait chier de le faire avec les outils standards. Je vais le développer pour peut-être améliorer le process de X ou Y chose ou dans le son, j'en sais rien.
C'est
ça. En fait, il va aller tweaker, en fait, Ableton grâce à cette c'est pas une extension, enfin si, quoique c'est une extension, mais c'est leur outil intégré de développement. Voilà.
C'est ça, donc c'est un autre avantage d'Ableton Live, c'est la communauté avec Max for Live, c'est déjà plein de plugins, de petites extensions qui ont été faites pour tout et n'importe quoi par d'autres, et soi-même, voilà, j'ai besoin d'un truc spécifique, bah, je peux le développer moi-même, sans connaissance de code préalable. Donc ça fait partie des avantages, je pense, selon moi, d'Ableton Live. Et je pense que ça fait, en tout cas ce dernier point-là, ça fait partie un peu des inconvénients, parce qu'on va aussi parler un peu des inconvénients, ou peut-être, du moins par rapport à notre expérience, hein, ça reste nos avis personnels. Mais moi, par exemple, Ableton Live, Je l'ai utilisé autant sur Windows et sur Mac. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de l'utiliser, c'était l'instabilité. Parce qu'effectivement, et ça je pense que c'est en grande partie, et je me suis rendu compte que c'est en utilisant justement les plugins Max4Live, c'est vu que c'est codé en visuel de ce que je comprends et que ça peut être fait par des gens qui n'ont pas forcément des notions de codage. Donc le problème, c'est que parfois ça peut créer des problèmes, des bugs, et ça peut rendre le logiciel instable. Parce que je me suis déjà rendu compte que j'avais certains plugins Max4Live que j'utilisais, que j'appréciais vraiment bien parce que c'était vraiment très pratique, mais ça faisait souvent crasher mes projets, etc. Donc du coup, le fait que ce soit pas optimisé, pas développé de manière traditionnelle, je pense que ça fait partie de l'instabilité d'Ableton, et moi, ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Ableton, en tout cas. Donc c'était voilà, l'instabilité. Toi, je ne sais pas si tu as déjà une expérience similaire aussi avec
oui,
Ableton.
Oui, c'était ça, j'avais un PC sous Windows aussi, c'était ma première expérience. Justement, moi, j'avais ce besoin de faire du live, puisque j'ai intégré un groupe qui faisait du trip-hop. Trip-hop égale quand même des influences électro. Il y avait beaucoup d'acoustique aussi. Donc je faisais partie d'un petit peu de ce groupe-là. Et il me fallait de quoi, justement, imiter des synthés, imiter des effets que faisaient ces groupes que je reprenais. C'était Chemical Brothers, du Portishead, du Archive, des choses comme ça, qui utilisaient fortement des synthés très lourds et des choses comme ça. Et moi, j'étais là avec mon petit Ableton. Et surtout, il me fallait quelque chose de live, de percutant. J'appuie, il faut que ça vienne. Et il fallait que je sois synchro avec le batteur. Je gérais aussi les effets de voix de la chanteuse, ce genre de choses. Donc, c'est très, très délicat. Et il me fallait quelque chose de robuste. Et c'était robuste jusqu'à un point. Et puis, j'avais trouvé que, je crois que je m'étais arrêté à la version 6, si je me trompe pas. Et ça commençait à être une usine à gaz, ce truc. Il prenait des gigas et des gigas, sans même parler des VST, hein. C'était même sans VST. Ça commençait à être lourd à exécuter, c'était un petit peu, voilà, bref. Ça m'allait plus trop, et j'ai découvert l'autre logiciel qui s'appelait Bitwig. Voilà, on parlera un petit peu après. Mais l'idée, c'est que c'était bien jusqu'à un point. Moi, j'ai pas utilisé Max4Live, par contre. Voilà, c'était mon expérience de Ableton.
Oui, et puis voilà, sans parler forcément du logiciel lui-même, on peut dire de manière générale que aussi nos besoins peuvent peut-être évoluer et que le logiciel, en dehors de ses peut-être défauts et qualités, c'est aussi simplement que le logiciel n'est peut-être plus adapté à nos besoins, je pense.
C'est ça. Bon.
Donc voilà, donc ça c'était pour Ableton Live. Après, si peut-être encore pour dire rapidement deux, trois autres points qui m'ont dérangé et qui ont fait que j'ai changé de dos, parce que c'est celui où on a eu de l'expérience, Ableton Live. Si c'est le fait, par exemple, c'est pour le mixage. Moi, le fait qu'on ne puisse pas vraiment mixer et faire du vrai routage audio, c'est un truc qui m'a beaucoup posé de problèmes quand j'ai voulu apprendre le mixage, etc. Parce que là, le mixage, donc le routage de l'audio, la route que l'audio prend est liée au groupe que tu fais dans ton projet. Donc, si tu groupes plusieurs pistes pour dire, voilà, ça, c'est mes groupes instruments, donc je vais mettre la guitare, le synthé, puis après, j'ai un autre groupe, c'est les drums avec le kick, les hi-hats, etc. Ben, le routage, tu ne peux pas envoyer d'une piste à l'autre comme tu voudrais. C'est obligatoirement lié avec la structure de tes groupes. Donc, moi, j'ai trouvé ça très confus. Il y en a justement qui trouvent ça plus pratique parce que c'est clair pour eux. Moi, ça fait partie des choses que je n'ai pas, qui m'ont bloqué. Donc, et aussi la logique et l'interface. Donc voilà, ça fait partie des petites raisons que j'ai arrêté Ableton Live.
Ah bah attends, moi j'ai une petite raison aussi, c'était le fait de démarrer plusieurs sessions.
Ah oui.
En fait, je reprends l'exemple de mon groupe de musique où quand on faisait un set en live, on reprenait plusieurs titres différents qui n'étaient potentiellement pas des mêmes groupes, qui n'avaient pas les mêmes ambiances, qui n'avaient pas les mêmes configs. Donc en fait, je ne pouvais pas utiliser live. En fait, le setup que j'utilisais, par exemple l'entrée micro de la chanteuse, je sais pas moi, les différents synthés que j'utilisais, je ne pouvais pas me dire, ok, je prends un seul projet et dedans, je mets mes lignes disposées de la même manière pour du Archive ou pour du Chemical ou pour du Portishead. Du coup, j'avais plusieurs fichiers, un fichier par titre. Et basculer de l'un à l'autre, alors que le groupe, lui, il est déjà prêt, en train de claquer, là, ça me faisait quand même, voilà, ça me faisait un peu, voilà. Donc, au bout d'un moment, j'ai quand même réussi à faire en sorte que tout rentre à peu près dans un seul projet pour que j'évite ces allers-retours. Parce qu'en répète, ça va. En répète, tu passes d'un projet à l'autre, tu vois, tu fais une pause, tu vas aller fumer une clope. Pas de souci. Par contre, en live, c'est différent. Donc, t'avais vraiment besoin J'avais vu certains projets actuels de gens qui utilisent Ableton en live. T'as 50 000 pas, enfin, t'as des projets immenses où tu dois scroller pendant 10 minutes pour arriver en bas, tu vois. Ok, pourquoi pas. Mais ça te fait un fichier monstrueux, quoi. Et ouais, tu dois prier pour pas qu'il plante, parce que si ton projet plante. Tu dois redémarrer ton projet.
Oui, en live, c'est compliqué à gérer. Oui.
Avec tout ce qui comporte du fait qu'il prend du temps à charger, le truc, puisqu'il est immense, ton projet. Et souvent, quand t'as un truc qui plante dedans et tu sais pas ce que c'est, avec tes 50 000 pistes, ben, vas-y pour chercher, quoi. Le débugage, voilà. Voilà. Donc ça, c'est effectivement le Do que j'ai choisi par la suite à complètement corriger ce problème. Voilà.
OK.
Et c'est pour ça que j'étais passé à ça. Ben FL voilà. Studio.
Hein, oui.
FL Studio.
Voilà, maintenant FL qu'on a fait Studio, le tour.
Est un logiciel belge.
Ah oui, je ne savais même
mais
pas.
Ouais. Eh oui. Voilà. Donc tu peux en parler comme tu es belge. Allez, vas-y.
Bien sûr, je connais tout ce qui concerne la Belgique, je suis belge d'office.
Tu viens de découvrir que
je viens de découvrir que c'est belge. D'accord.
Voilà, voilà. Donc
je suis un traître à ma patrie.
En fait, c'est Didier Dambrun pour la firme belge Image Line qui a créé ça. En 97 pour les Belges, justement.
97 pour les Français.
Exactement. Donc, en tout cas, moi, je l'avais croisé très vite dans des magazines d'informatique. Et moi, je suis informaticien un petit peu de profession et de passion. Et c'était incontournable dans ces époques-là, comme l'Internet était encore très marginal, d'acheter des magazines et dedans, t'avais des CD-ROM avec plein de software dedans.
Ah oui.
Et souvent, t'avais ton Photoshop, t'avais ton truc, et t'avais ton FL Studio dedans.
Oui.
Et tu te dis, OK, je démarre ça. Et puis, en fait, c'était effectivement un des premiers un peu step séquenceurs très, très visuels, très colorés déjà. Parce que, voilà. Et t'avais vraiment envie d'y faire de la musique. Moi, à l'époque, je faisais pas de musique du tout. Mais même en faisant pas de musique du tout, t'avais envie d'en faire. Tu savais pas ce que tu faisais, mais t'en faisais. Et donc, c'était vraiment une qualité, une certaine qualité. Et je pense que ça, en tout cas, c'était pas mon cas à l'époque, mais ça a beaucoup stimulé et fait naître des passions musicales pour faire un petit peu ces beats, quoi. C'était vraiment un logiciel de beatmaker, quoi, à l'époque, pour faire des loops avec ce step sequencer, peut-être pour des rappeurs qui rappaient par-dessus, etc. Mais pas que, voilà. En tout cas, c'est un outil qui a ouvert beaucoup de portes, je trouve. Je sais pas, tu as eu un contact, toi, avec...
Oui, j'ai commencé... Bah, FL Studio, c'est le premier que j'ai utilisé, je pense. Enfin, voilà. Non, c'est un des premiers que j'ai utilisé. Et effectivement, comme tu dis, il était populaire à l'époque parce que l'interface agréable qui donnait vraiment envie d'y aller. Et aussi, le système donc, qui était assez unique à FL Studio à l'époque, c'était le système de pattern, comme ils appellent ça. Donc, en fait, c'est de pouvoir, au lieu de dessiner sur une grille ou avec des notes, c'était de pouvoir déclencher les drums, les kicks, etc., en choisissant tous les X temps je veux,
ouais,
avec une petite grille.
C'était pas des points ou des ronds?
C'est ça.
Des ronds. Ah, c'est des ronds.
C'est ça, c'était illustré sous une forme de timeline. Au lieu de devoir supporter avec des notes ou autres, c'était illustré sous une forme de timeline. Et alors, donc, on pouvait dire tous les deux temps, tous les quatre temps, je voulais déclencher. Et c'était très pratique pour faire des drums. Et c'était les précurseurs à ce niveau-là pour ce design-là. Donc, effectivement, c'est pour ça que c'était privilégié et que c'est toujours le cas maintenant pour les beatmakers, comme tu dis. Donc, ça, c'était mon contact avec FL Studio. Par contre, le routage encore très compliqué, là, la table de mixage, c'était un peu, ça peut partir dans tous les sens avec le câblage virtuel. T'as les câbles qui vont partout. Okay. Ça peut vite devenir le bordel. Et voilà, si je crois ce qui a fait sa popularité, c'est que déjà, il était facile à craquer. Donc, moi, je l'avais acheté, mais voilà, il était facile à craquer. Je sais que comme tu parlais avec les CD, en dehors des démos officielles, t'avais beaucoup de gens, je connais, ils se partageaient, ils se filaient les CD d'installation, etc. Parce que contrairement aux autres logiciels de l'époque, comme Cubase ou autre, où t'avais un genre de dongle USB, donc c'était une clé USB physique que tu devais mettre sur ton PC, et si tu la mettais pas, le logiciel ne démarre pas. Donc, tu avais une sécurité physique. À l'époque, il y avait beaucoup de logiciels comme ça qui fonctionnaient avec ce système de clé USB où tu étais obligé de connecter pour démarrer ton logiciel. Et le FL Studio n'avait pas ça. Et je crois que ça fonctionnait sur bêtement une clé de registre dans ton Windows. Et simplement, voilà, ça, c'était juste ça à faire. Et du coup, il démarrait. Donc, du coup, je crois que ça a Ça a fait la popularité aussi, et aussi le prix, parce qu'il était simple d'accès. Parce que à l'époque, les alternatives qu'on avait quand il était sorti, c'était le studio Fruity Loops. C'était il y a 15 ans, il y a 20 ans. C'était avec Cubase pour les home studios. Et il était, donc, comme je disais, il y avait le dongle USB, la sécurité. Et en plus, ça coûtait cher, c'était des 800 €. Tandis que FL Studio est arrivé avec des versions à 150 €. Et en plus, tu ne payes pas les mises à jour. Donc, c'est licence à vie. Alors que Cubase, par exemple, tu devais payer 150-200 € pour chaque mise à jour. Donc, je crois que ça fait partie de tous les petits points qui ont fait FL Studio son studio, son succès, pardon. Et voilà, c'est pour ça que c'est aussi devenu un incontournable à l'époque, qui a vraiment démocratisé, je pense, la composition de musique électronique. Donc voilà.
Très bien. J'ai rien d'autre à dire, mais je parlerai bien du suivant.
Okay.
Logic Pro.
Ça va. Oui, parce qu'au FL Studio, j'ai pas grand-chose à rajouter non plus, donc beaucoup de qualité. Et le seul point négatif, c'est que voilà, le système de pattern qui lui est propre et la logique pour le mixage, le routage de l'audio, c'est un peu compliqué. Enfin, ça peut devenir le bordel pour moi, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et pour Logic Pro, du coup, vas-y Pascal, dis-moi ton expérience là-dessus.
Alors, Logic Pro, bon, il faut être un peu maso. Non, je plaisante. Alors, Logic Pro... Une première remarque pour couper court tout de suite si ça intéresse à quelqu'un, ce n'est que disponible sous Mac. Voilà. Alors, je sais que Mac, c'est quand même un incontournable dans le domaine de la musique. Voilà. Donc, ça ne devrait pas normalement être un déterrant pour le choisir, puisque, en tout cas, moi, je conseille à tout musicien de ne pas commencer à jouer avec PC. C'est pas la peine. Franchement, non. Voilà. Voilà, moi ne serait-ce, je suis un inconditionnel du PC dans mon domaine professionnel, mais le fait d'avoir acheté un Mac, ça me permet de m'isoler en fait, d'isoler ma machine de gaming, de loisirs et de travail avec mon ordinateur de son, de musique, etc.
Pareil.
Qui sera donc mon Mac. Voilà, ouais, tu vois. Déjà, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que du coup, la majorité des logiciels audio sont faits pour Mac ou marchent peut-être mieux sous Mac. Voilà, puisque le moteur audio de Mac est un peu plus stable. Bref, donc Logic Pro, c'est un logiciel fait par Apple, voilà, ou racheté par Apple, je ne sais pas exactement. Tu as l'historique, toi, de Logic Pro ?
Non, mais je crois qu'effectivement, ça a été racheté, si on ne dit pas de bêtises, ça a été racheté à un moment. Mais voilà, j'avoue, je ne m'amuse pas. J'utilise depuis pas si longtemps que ça Logic Pro, en fait, pour être honnête. Donc, je n'ai pas accès à l'historique de Logic Pro.
Ah bah, Logic Pro, donc, société allemande, qui s'appelait Creator, d'abord, qui a été créée sur Atari ST et Commodore 64. Voilà, à la fin des années 1988. Waouh. Après, c'est devenu Narrator. Et ensuite, portage du logiciel sur PC et intégration de l'audio. Waouh. Ah, c'était sur PC, hein. Voilà, après, ils sont appelés Logic. Et ensuite a été racheté en 2002 par Apple et décide d'arrêter le développement sur Windows. Comme par hasard.
Oui, non, bon, ah ça.
Et voilà. C'est presque logique. Hein. Cette bonne guerre, dirons-nous. Voilà, donc ils ont arrêté le développement là-dessus. Mais il faut dire que ça a été développé d'abord sur Atari. Enfin, développé d'abord. Disons que la société a d'abord sévi sur ces plateformes-là qui sont Atari et Commodore. Pas mal comme historique. Hein. Donc on se retrouve devant le plus vieux pour l'instant. Hein.
Oui.
Voilà, voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu aimes dans ce logiciel ?
Bah, Logic Pro, il y a plusieurs choses qui sont assez intéressantes. Par exemple, ça a les avantages comme FL Studio. C'est une licence à vie. C'est tu payes 200 € et t'as tout. T'as pas de version d'extension à payer comme un Ableton Live. T'as pas de mise à jour à payer comme un Cubase. T'as tout pour 200 €. Et aussi, c'est que autant que t'as pas de plugin, t'as pas les extensions Max4Live comme t'as dans Ableton ou les modules que tu peux faire dans Reaper, mais en fait, t'as tout qui est déjà intégré dedans. Par exemple, tu veux un Ozone Mastering Assistant, donc pour le mastering par IA, il y a déjà dans Logic. Tu veux un plugin, par exemple, dans Ableton Live, si tu veux avoir tous les plugins, tu dois acheter la grosse version, la version suite, qui est à
500
€. Du coup, alors que dans dans Logic, t'as tout. T'as vraiment tous les plugins qu'il faut de base. Parce que même en fait, dans la version suite d'Ableton Live, t'as accès à tout ce qu'il te propose. Mais il va peut-être te manquer. Alors bon, t'as l'essentiel, t'as un EQ, t'as un compresseur, etc. Mais toi, t'as peut-être pas un vocodeur, t'as peut-être pas un truc. Alors que dans Logic Pro, c'est que t'as tous les plugins dont t'aurais besoin, ils sont déjà là. Donc déjà, pour un débutant, ça éviterait déjà de devoir acheter pas mal de plugins externes pour compléter sa collection. Tu veux un autotune, il y en a déjà intégré. Tu veux Melodyne pour corriger les notes d'un chanteur, tu l'as intégré aussi. Enfin, et en plus, les outils en eux-mêmes, c'est pas juste que c'est disponible, c'est qu'ils sont reconnus pour être très, très bons, les outils.
Est-ce que c'est la version Wish ou est-ce que c'est la
voilà,
version...
Voilà, non, c'est des bons plugins. Donc, c'est quand même des bons plugins. Et en plus, surtout, par exemple, ils en ont... Par exemple, le plugin de distorsion, c'est Camel, le fameux Camel Crusher, le plugin de distorsion qui était très connu il y a 10 ans, qui est un peu l'incontournable pour la distorsion. Ce sont des plugins en général qu'ils rachètent, donc c'est pas un plugin histoire de dire qu'il est là pour dire qu'il est là. Ce sont en général des gros plugins qu'ils ont rachetés pour intégrer au catalogue. Donc du coup c'est des plugins qualitatifs. Et donc du coup on a une solution. En fait on a une solution tout en un avec Logic. Donc c'est ça qui est l'avantage. Donc on a une solution tout en un pour un prix unique.
Juste pour parler un peu du workflow, il me semblait que le workflow de Logic était un peu moins axé sur le live. Mais oui. Un peu plus sur l'arrangement et le côté un peu studio, je suis pas sûr, mais c'est ça. Voilà.
Alors, en fait, simplement, oui, donc là, on est dans le Do traditionnel. Donc, contrairement à Ableton Live qui était pensé pour le jam et le live, tu le fais bien de le noter, Logic, on est plutôt dans le registre du Do traditionnel, même si maintenant, il intègre une vue, il intègre un mode de live jam.
C'est ça.
Mais... Voilà, c'est pas aussi puissant ni aussi stable que celui d'Ableton Live, je le reconnais. Donc, du coup, voilà, il y a encore du chemin à faire là-dessus, mais il intègre une vue, mais ce n'est pas le cœur du Do. Donc, effectivement, on avait Ableton Live axé sur le jam, on avait FL Studio axé sur les patterns et les beats, et alors là, on a maintenant Logic Pro qui, lui, est plutôt dans le registre, qui est le premier qu'on cite, qui est dans le registre des Do traditionnels. Donc vraiment comme un enregistreur multipiste classique quoi. Donc tu fais bien de le noter.
Ok. Et il y a son petit frère ou sa petite sœur, Mainstage.
Mainstage qui est plutôt le petit frère, ça aurait été GarageBand sur mobile ou même sur Mac qui est la version light, qui est une version light beaucoup plus simplifiée pour les gens qui ne sont pas habitués à faire de la musique électronique. Et alors effectivement t'as Mainstage qui est lui qui est un peu une extension à part, c'est un peu différent. C'est juste pour en fait gérer plusieurs instruments lors d'une performance live, c'est que tu peux passer facilement d'un synthé à un autre quand tu es en train de jouer du clavier en live. Donc c'est
en gros, la problématique que j'exposais avec Ableton Live, que j'utilisais comme un petit peu régisseur d'instruments, de pistes, d'effets pour la chanteuse, tout ça. Donc la problématique que moi j'avais avec Ableton Live, finalement, c'était plutôt Mainstage qui m'aurait fallu comme outil. Pour me dire, bah écoute, voilà, moi j'ai ma piste synthé 1, synthé 2, synthé 3, synthé 4. J'ai ma chanteuse qui rentre là, j'ai mon batteur qui rentre là, j'ai le clic qui part là-bas, j'ai le truc qui fait ci, qui fait ça. Et en fait, ça te permet d'avoir vraiment un outil, enfin apparemment un outil entièrement personnalisable dans la vue, dans ce qu'il sait faire. Je crois qu'il y a une intégration avec, tu peux l'avoir sur ton iPad, je crois, des choses comme ça, hein, c'est ça?
Oui.
Voilà. Donc, c'est vraiment un outil, bah, comme le son nom l'indique, main stage, c'est pour aller sur scène. C'est vraiment un outil de ce type-là. On a vu dans les backstage, je dirais pas, mais on a vu vraiment Deep Forest l'utiliser intensivement, hein, je crois.
C'est ça. Lui, il utilisait une solution. Il utilisait effectivement Ableton Live donc pour gérer ses loops, gérer ses boucles en direct et main stage. Donc, pour gérer ses synthés principaux qu'il jouait,
synthés, ouais.
Pour gérer ses claviers qu'il jouait en live.
Donc, pour déclencher même ses sessions, en fait.
C'est ça.
Voilà, je passe du track 1 au track 2, et puis quand je suis au track 1, j'ai ça, ça et ça. Quand je suis au track 2, j'ai ça et ça et ça. Et ça, bah, avec Ableton, seul, je ne l'avais pas. Voilà.
Bah, tu pourrais, mais c'est compliqué. Il n'y a pas de truc vraiment prévu spécifiquement pour ça dans Ableton Live. Donc, effectivement, c'est un petit point fort pour le live, mais du coup, on est plutôt pour les claviéristes. Que pour les compositeurs de musique électronique, ou les divs.
Autre chose à dire sur Logic Pro ?
Non, pourrait en dire beaucoup, mais je veux dire, dans le principal, c'est ça, c'est le prix unique pour avoir tout. Donc, et le workflow qui est plutôt, donc la manière de travailler qui est plutôt traditionnelle. Donc, voilà.
Et accessible, toi, parce que je me souviens que tu as galéré pour passer à ce truc-là, mais...
Non, du tout.
Je t'ai plus entendu te plaindre après.
Oui, non, je n'ai pas galéré, non.
D'accord.
Je crois que c'est parce que j'avais... Oui, parce que quand on avait collaboré, j'étais en train d'opérer le changement. Donc, les deux, trois premiers jours, forcément. Mais honnêtement, moi, en tout cas, au bout de deux, trois jours, ça a été... Mais je pense qu'on en reparlera après sur comment choisir son dos, de toute façon. Mais je pense que c'est aussi simplement trouver un dos qui correspond à son workflow. Donc,
très bien.
Et ce même correspondait mieux et j'ai vite pris en main.
Ok. Bitwig.
Ah, ça, c'est ton domaine.
Ok. Vas-y, parle-moi de Bitwig.
Ah, je sais que ça existe. Je sais que ça a été fait par...
Tu sais que c'est le meilleur dos du monde. On est d'accord.
Selon Pascal, oui, c'est le cas.
Selon Pascal.
Non, mais je sais que ça a été fait par les membres d'origine qui ont fait Ableton Live.
Ou du moins certains. Vraiment. En fait, je crois que c'est un directeur commercial, si je ne me trompe pas, qui est parti de... qui était chez Ableton initialement. Non, 3 personnes, 4 personnes.
Par un groupe une équipe d'anciens.
Ouais, c'était des anciens, ou en tout cas un d'anciens de Ableton, qui est venu en groupe. Voilà, c'est... En fait, on voit clairement. En tout cas, moi, quand je suis passé d'Ableton à Bitwig, c'est pareil, quoi. C'est vraiment pas le même. Enfin, si c'est le même workflow, je dirais vraiment au niveau workflow, c'est quasiment pareil. Sauf qui, franchement, pour moi, il passe un cran au-dessus surtout.
Même approche, mais pas la même exécution.
Ouais, exactement. Déjà, d'une part, tu passes d'un moteur de plusieurs gigas nu. Hein, on parle de Ableton, c'est plusieurs. Quand moi je l'installais à l'époque, il dépassait déjà le giga, je crois, à l'installation nu, hein, je parle sans VST, sans rien. Bitwig, quand tu l'installais, il faisait 300 mégas. Ça, c'était un, voilà. Donc, imagine-toi que 300 mégas, tu pouvais même les charger en mémoire vive directe, quoi. C'est d'ailleurs ce qu'il faisait, quoi. C'est-à-dire que le programme, il s'exécute, pouf, il est dans ta mémoire vive, point. T'as plus besoin d'aller écrire nulle part, toi. Donc, en termes d'exécution, ça se pose là. Maintenant, Bitwig est un peu plus lourd. Je crois qu'il dépasse maintenant aussi le giga, si tu prends toutes ses bibliothèques et tout. Mais on est 10 ans plus tard, donc ça va. Et je pense qu'Ableton, entre-temps, je l'ai réinstallé dernièrement. Alors lui, il s'est pas fait un régime, hein, entre-temps. Donc voilà. Mmh. En gros, il était plus léger. En fait, ils ont complètement redéveloppé le soft qui, à l'époque, beaucoup de constructeurs, enfin beaucoup de développeurs se disaient « Bon, bah moi, je me lance dans le développement et puis je suis englué pendant 15 ans dans le même type de langage. » Eux, ils sont tout de suite passés dans un langage. En fait, quand ils ont développé Bitwig, ils l'ont tout de suite fait multiplateforme. Et quand je dis multiplateforme, c'est Windows, Mac, Linux. Mmh. Donc, wow.
Ça, c'est un gros point pour les gens sur Linux.
Exactement. Et en fait, c'est pour ça que j'avais... En fait, moi, j'avais... une grosse impression, quand j'utilisais Ableton, qu'il était plus développé pour Mac que pour Windows. Parce que je voyais beaucoup de problématiques que quand je cherchais sur les forums, « Ah, mais pourquoi j'ai essayé ?»« Ouais, mais c'est que dans Windows que t'as ce problème. »« Ouais, bon, on l'a déjà corrigé dans Mac, mais pas encore dans Windows. » Enfin, voilà. Il n'y avait que ça, en fait. Ou alors, je trouvais même pas de réponse parce qu'il disait « Mais attends, t'es sous Mac ?»« Non, mais ah, bah alors laisse tomber. » Enfin, tu vois, c'est limite... c'est même pas la possible, en fait, tu vois. Et du coup, là, j'avais enfin un dos qui, j'étais encore sur Windows, qui prenait en compte ce système et marchait royalement bien sur ce système. Plus léger, plus stable. Il avait un système qui, je ne sais pas s'il a été repris par Ableton entre-temps, mais en tout cas, Bitwig l'a fait dès le début. C'était que quand on VST, il crash, il avait, en fait, il compartimentait le VST dans comme un noyau à part.
Ouais, unboxing,
une session virtuelle à part.
C'est ça.
Ce qui fait que ton VST crachait, mais ta musique continuait. Et il avait énormément de fonctionnalités comme ça. Moi, je me souviens, j'étais dans la version encore 1.2, je crois, je ne sais plus. J'avais des fois, effectivement, en live, des crashs. Mais j'avais l'image de crash qui arrivait, mais je continuais à jouer. Parce qu'il y avait un plugin VST pourri que je testais, qui était nul, quoi. Après, je l'ai enlevé, etc. Mais je pouvais, c'était ultra stable. Et ça, c'était... Et puis, chargé en deux secondes, quoi. Franchement, tu cliquais. L'autre particularité qu'il a, c'est, en fait, tu as des onglets. Voilà, t'as tout simplement, tu ouvres ta session, tu démarres, tu fais ton truc, tu ouvres une deuxième session, un deuxième projet. En fait, tu as un onglet au-dessus. Tu peux ouvrir plusieurs projets différents. Mmh. Voilà, c'est aussi con que ça. Chez Ableton, tu pouvais le faire en ouvrant plusieurs Ableton, en fait.
Ouais, mais
Mais je
c'est pas
t'explique même
en
pas la
termes de
mémoire.
ressources, c'était pas prévu pour ça, oui.
Et en niveau conflit et tout, c'était l'horreur. Voilà. Bitwig, lui, il ouvre plusieurs onglets, mais tu peux pas les exécuter en même temps. C'est-à-dire que tu ouvres ton projet et tu as un bouton en haut qui fait activer ce projet-là. Ensuite, tu switches au deuxième projet et tu actives celui-là. En fait, il fait switcher le moteur audio du premier au deuxième.
Ah, Logic Pro, il gère tout ça sans aucun problème.
Ok, tu vois, super. Donc voilà, donc tu as plusieurs projets en haut et du coup, moi, je pouvais switcher en live du projet A, projet B et je pouvais les aligner comme ça, etc. Et donc, ça, c'était top. Et puis, il avait une très forte intégration MIDI avec beaucoup de soft. Il y a beaucoup de développement un petit peu autour aussi. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand tu achetais du matériel MIDI, tu devais t'assurer qu'il soit compatible avec ou que l'éditeur s'est bien assuré qu'il soit compatible avec, même avec Ableton. Bitwig, lui, il se faisait même pas chier, quoi. C'était pré-intégré la majorité du temps. Ou, en tout cas, c'est même Bitwig qui allait vers les fournisseurs de matériel pour eux-mêmes développer la compatibilité. Parce que, comme ils n'étaient pas les numéros un comme Ableton, déjà, ils se permettaient pas de bouder l'une ou l'autre marque, hein, ou ils n'attendaient pas que les marques viennent vers eux. C'est eux qui allaient vers les marques. Donc, il y avait des intégrations très, très sympathiques et. En tout cas, moi, j'avais pas besoin de changer de matériel quand je changeais de dos. Ça, c'était la première chose. Mais c'était vraiment des problèmes peut-être d'époque. Peut-être c'est
Oui,
plus
je
le cas
pense que maintenant
maintenant.
c'est plus universel.
Ouais, c'est beaucoup plus universel. Donc voilà, moi, je suis très content. Alors à l'époque, pareil, le prix était beaucoup moins cher. Tu l'avais pour 150 €, je crois, Bitwig, alors que Ableton devait être dans les 300. Maintenant, les choses ont changé. Bitwig a aussi, depuis une certaine version, je crois que c'est la version 3 ou 4, a changé de méthode de facturation aussi, c'est que ils ont switché sur un mode un peu service, c'est-à-dire que tu achètes pour un an les mises à jour du produit et si tu payes plus, le logiciel, tu peux continuer à l'utiliser autant que tu veux, mais tu n'as plus de mise à jour. Donc, ça peut plaire à certains en se disant, moi, de toute façon, mon soft, il est comme il est super stable, mais il n'aura plus les petits raffinements du dos de la suite. Et le problème avec Bitwig, c'est que putain, les raffinements, ils t'en mettent un. Waouh! Alors autant, toi, tu me dis logique, ok, cool, il intègre plein plein de trucs. Bitwig, pas forcément, il intègre pas d'autotune ou il intègre pas de choses un peu comme ça, de raffinées. Mais par exemple, il fait du modulaire, quoi. Rien que ça. C'est-à-dire que tu peux faire du synthé modulaire dans un dos. Et pas que ça, c'est-à-dire que tu peux utiliser ces outils modulaires dans d'autres VST. C'est-à-dire que tu peux moduler tes VST entre eux. Voilà, c'est un truc de fou. Par exemple, si tu te dis, tiens, j'ai un VST. Tiens, je vous le mets. En entrée de VST, je peux lui mettre un module type LFO, etc. Et c'est même pas. En fait, tu peux lui mettre comme si c'était un module d'un synthé modulaire, et après le rattacher dans ton synthé modulaire, et puis lui dire, quand je tourne ce bouton-là dans le synthé modulaire, il va aller toucher dans ce projet-là et aller prendre le LFO et le changer là. C'est des trucs de ouf, quoi. Donc, tu peux commencer à. En fait, moi, des fois, je m'emmerde même plus. Je sais que certains VST ont plein de choses intégrées dans le VST lui-même. Par exemple, je sais pas moi, le fait de pouvoir faire de l'arpège, des choses comme ça, ils ont peut-être des choses un peu intégrées. Mais en fait, comme je connais mieux les outils de Bitwig, je vais prendre le VST tel qu'il est, il fait ce qu'il a à faire. Et puis, je vais lui intégrer en entrée de ce petit VST, il y a un petit module, bam. Tiens, je vais lui faire un petit LFO là, je vais lui faire un petit arpège là. Tiens, en plus, je vais l'accrocher à mon synthé en MIDI par ici, etc. Enfin, il y a. C'est vraiment. Et puis ça marche tout seul, quoi. Ça charge pas, ça. Et ça, ils ont vraiment bien réussi. Il y a le côté loop, live que Ableton fait bien. Bien sûr, Bitwig le fait bien aussi. Tu as le côté arrangement qui est aussi très, très bien fait. Tu as les pistes hybrides aussi. C'est-à-dire que sur une piste, tu peux avoir à la fois du MIDI et de l'audio. Pourquoi c'est bien? Tout d'un coup, tu as enregistré ton truc audio. Et puis, tu as un petit passage où tu aimerais te dire, là, j'aimerais prendre ce passage-là, lui mettre une réverb ou l'inverser ou faire un effet un peu particulier. Tu prends juste ce bout-là, tu le bounce et puis tu fais son effet, puis tout le reste reste en MIDI.
Ouais, Logic Pro
Voilà.
le fait aussi, ça.
Ah,
Parce que je t'avais dit, on en avait parlé entre nous en privé, je t'avais dit non, et en fait,
Ah, t'as trouvé.
sans faire exprès, j'ai glissé du MIDI sur une piste audio et ça a marché, et j'étais là, ah ouais, en fait,
Ah,
on.
trop bien. Trop bien. Donc voilà. Et surtout, moi, je suis un fan inconditionnel du fait de rester au moins demi minimum de pistes syndicales. J'aime pas du tout des projets à 20 pistes. Ça, c'est pour moi, je peux pas. J'ai mon petit côté. Si j'arrive à faire un projet avec 8 pistes, ça me suffit. Et puis, j'essaie d'intégrer le maximum d'effets ou de modulations sur mes pistes. Si j'ai besoin de moduler ou que ma piste sonne différemment, je la modulerai à l'endroit où je veux qu'elle change. Voilà. Mmh. Et je sais que c'est peut-être aussi le workflow de Beatweek qui me pousse un peu à faire ça parce que c'est vraiment bien intégré et tout. Donc voilà. Et très souple et ça marche bien, quoi.
Voilà. Mais est-ce qu'il supporte est-ce qu'il a un équivalent de Max for Life? Puisque c'est un point fort de Ableton Live.
Il prend les VST, quoi.
D'accord. Il n'y a pas de Max for Live ou équivalent.
Non, mais je veux dire, tu développes en VST, c'est tout. Et puis si tu as envie de. En fait, il y a le modular, en fait.
Ah non, c'est une question, c'était pour voir s'ils avaient repris le même concept ou pas.
Non, ils n'ont pas le même concept, mais ils ont le côté modular, en fait. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui utilisent le modular, mais pas pour faire du synthé. Mais pour dire, tiens, j'ai pris le modular, j'ai combiné des choses ensemble qui ne sont pas forcément pour faire du son, mais qui sont pour créer un effet. Tu vois, ils ont créé un effet à partir du modular où tu as entrée-sortie, puis l'entrée, c'est ton son d'entrée, et puis la sortie, c'est passer par cette grille d'effets. Et en fait, ils ont créé énormément de presets. Moi, des fois, j'ai des presets, je les applique, et en fait, je me rends compte que c'est fait sous modular. Ouais. Et après, tu ouvres modular et bam, t'as tout qui est. C'est même plus visuel là. C'est carrément. Il n'y a même plus de développement en fait. Tu poses les trucs et tu mets les fils entre eux.
C'est vrai que voilà, effectivement, comme tu dis, tu peux déjà tout moduler, t'as pas forcément besoin de Max for Live alors.
Et sinon, moi j'ai aussi beaucoup de scripts en fait. Ils proposent. Beaucoup de gens peuvent créer des scripts en JSON, je ne sais plus si c'était en JSON. Ou en Java, je crois que c'était des scripts Java. Et puis tu les places et en fait, tu as un petit icône qui apparaît en haut dans ton menu. Et puis en fait, par exemple, il y a un gars qui a fait un petit script pour créer automatiquement des mélodies, pour automatiquement choisir des aides à la composition, par exemple, des choses comme ça. Et il les file gratuit, quoi. C'est le gars qui s'appelle Polarity. Il est très connu dans le monde de Beatweek. C'est un mec qui a tellement été identifié avec Beatweek qu'il doit faire des vidéos pour dire « Non, mais les gars, je suis pas payé par Beatweek, quoi. » mais voilà. Mais il est très très actif dans cette communauté-là. Il est allemand aussi, si je ne me trompe pas. Et lui, il file ces scripts-là et il en file énormément, qui améliorent un petit peu la qualité. Donc après, là, c'est du développement, un peu plus développement, on va dire. Là,
d'accord.
Du code. Par contre, le modular, là, c'est du freestyle. Hein. Tu poses tes trucs, tu les rassembles entre pieds. Voilà. Donc voilà pour Beatweek. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Voilà, on passe à la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
On a Pro Tools, l'incontournable du studio.
Ouais. Moi, je l'ai vu tourner une fois dans ma vie. C'était mon collègue, un peu mentor dans tout ce qui est mixage, qu'il utilisait, lui. Mais il avait une immense table de mix Neve, je crois. Non, c'était du SL Studio. Je sais plus ce que c'était. Bref. Et puis, il avait son Pro Tools dessus. Voilà. Et puis, qu'est-ce que tu peux en dire, toi, de Pro Tools ?
Bah, Pro Tools, j'avais déjà regardé un peu pas mal à une époque parce que j'avais voulu faire une formation dessus. Pro Tools, alors, donc c'est vraiment solution orientée studio, vrai studio. Donc du coup, ça a une logique et un workflow qui est vraiment travaillé pour les personnes qui ont l'habitude de travailler avec de l'analogique en studio. Donc ça, c'est son point fort pour refaire le workflow d'un vrai studio dans le virtuel. Ça, tu peux le faire sans aucun souci. Par contre, par exemple, pour la composition avec le MIDI, etc., pour composer de la musique, c'est pas le plus fort. Il manque beaucoup d'outils là-dessus. Donc, il est vraiment orienté enregistrement, traitement, mixage. Mais voilà, mais c'est pas son point fort, la composition. Donc, c'est pas prévu. C'est même pas prévu pour ça, d'ailleurs. Donc, c'est pas prévu pour composer chez soi, home studio. C'est pas vraiment prévu pour ça. Et d'ailleurs, il était compatible uniquement qu'avec une série de cartes son, de matériel spécifique assez cher pour du pro. Donc, parce que c'était vraiment le logiciel, le centre de contrôle des studios, en fait. Et je crois que c'est toujours le cas. Mais c'est comme tu dis, maintenant, on commence à voir apparaître dans certains studios, ils commencent à proposer d'autres logiciels. Quand tu loues le studio, ils ont déjà Cubase ou Logic installé. Mais maintenant, voilà, Pro Tools, ça reste le standard des studios, en grande partie, avec une logique, voilà, liée au studio.
Une logique plus technicien du son.
C'est ça, oui. Ouais. Gérer de l'analogique.
Ouais.
Donc voilà.
Un gros point aussi qu'il y avait, c'était que Pro Tools, avant 2022, c'était l'outil ultra cher, quoi, qui était effectivement réservé au studio. C'était un outil que t'achètes comme t'achètes la suite Adobe aussi pour un studio de de graphiste, tu vois. C'est le truc. Alors, ils se pirataient, hein, je crois, Pro Tools, mais comme tu disais, il y avait un dongle sur Pro Tools, je me trompe.
Ça, c'était pour Cubase. Mais pour Pro Tools, le problème, c'est que c'est même pas ça. C'est que même si tu arrives à le pirater, c'est qu'en fait, il n'était compatible qu'avec avec du matériel spécifique.
Ah oui, 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 c'est vrai.
Donc, du coup, même si tu arrives à le pirater, bah, même si tu arrivais à pirater le logiciel en lui-même, bah, si tu n'avais pas, pas la carte son à 7000 euros derrière, bah, tu ne savais pas t'en servir, en fait.
Donc, en gros, tu achètes la carte son, tu avais, à mon avis, au prix de la carte son, le Pro Tools livré avec, généralement, genre de conneries. Je sais pas.
Oui. En fait, alors, comme maintenant, ça s'est démocratisé, maintenant, le prix s'est démocratisé, et en plus, tu peux l'utiliser.
Il est sous souscription maintenant. C'est 10$ par mois ou 100$ par an. Quelque chose comme ça. C'est pour Pro Tools Artist. Et ensuite, tu as Pro Tools Studio, et là, tu es plus à 300 par an et 40 par mois. Voilà.
Ah oui, je vois que je vois sur le site apparemment s'il y a une liste de produits de matériel compatible et je vois les surfaces de contrôle tiers aucune compatibilité. Donc apparemment c'est toujours dans la même logique. Donc du coup il faut du matériel spécifique pour utiliser, c'est pour le studio. Donc c'est pas des cartes son à des prix abordables pour quelqu'un à utiliser chez lui. Donc voilà. On n'est pas dans une logique de home studio, c'est vraiment une logique de studio pure et dure Pro Tools, voilà.
Eh ben dis donc, maintenant tu m'as déçu parce que moi je voulais travailler avec Pro Tools là, donc.
Bah c'est du matériel pour faut être ingé son en fait. Il y a peut-être moins de travail avec chez soi, mais il est pas adapté de toute façon pour ça comme on l'a dit.
Bon,
c'est
ok. Non j'ai compris, je reste avec Bitwig. j'ai compris.
Ah oui il faut changer. Et c'est bien de connaître le nom.
Oui. Non, je reste avec Bitwig, cherche pas. Ok, Cubase, c'est super. C'est vieux aussi ça. Hein?
Oui, hein. Ça existait déjà il y a longtemps. Mais Cubase, assez complet. Je crois qu'ils avaient, avant FL Studio, c'était eux qui avaient le monopole sur tout ce qui était plutôt solution Home Studio. Donc en gros, les gros points importants, c'est qu'on est comme dans Logic Pro, c'est du traditionnel dans la logique de travail.
Ouais.
Par contre, il était assez cher. Comme je disais à l'époque, il y avait même des dongles utilisés, etc. Donc c'était un produit assez cher. Maintenant, c'est un produit assez complet comme Logic Pro, parce que c'est quand même resté l'incontournable. C'est un peu l'équivalent d'un Pro Tools, mais un Home Studio, quoi. C'était assez complet, mais prévu pour le Home Studio, ça, par contre.
Ouais.
Par contre, l'inconvénient, apparemment, de ce que j'ai cru voir encore, c'est l'interface. Contrairement à Logic Pro, et là où tu vas faire deux clics dans un Logic Pro, tu vas en faire cinq dans Cubase. Donc Cubase, il est très costaud. Tu peux faire plein de choses, mais par contre, c'est à des menus et des sous-menus, quoi. Donc, voilà.
Ouais. Alors pour l'histoire, il était aussi disponible sur Commodore 64 et Atari. Il existe depuis. J'ai pas de date. Ah, c'est rigolo. J'ai pas de date.
Ouais, Steinberg, faut dire aussi que c'est ceux qui ont inventé le. C'est donc ceux Steinberg, qui développent Cubase et c'est eux qui ont inventé la norme VST qui est utilisée maintenant par tous les plugins et tous les instruments virtuels dans tous les logiciels. Donc, c'est eux qui ont développé ça, en fait. Enfin, du moins que ça a été repris par tout le monde, ce système-là. Donc, qui a un fichier VST, donc c'est le format du fichier utilisé pour les plugins.
Ah oui, voilà. C'est bien ce que je pensais. C'est que Steinberg a été racheté par Yamaha. Donc, en fait, Cubase appartient à Yamaha, si je comprends bien. J'ai quand même vérifié si c'était pas genre que la partie hardware qui était reprise par Yamaha, mais non. On voit bien que Steinberg, la maison mère, c'est Yamaha.
D'accord, je ne sais pas.
Ouais, parce qu'à l'époque, j'avais acheté cette carte son que tout le monde achetait, la UR22, je crois.
Ah oui, oui.
Hein? Avec t'as le pilote que tu télécharges de chez Steinberg, et puis à un moment donné, il fallait aller sur le site de Yamaha pour le télécharger. C'est là que j'ai compris que Yamaha l'avait racheté. Bon, ça change rien. Elle peut toujours encore marcher, cette carte son.
J'ai une élève qui l'a aussi, celle-là.
Non, mais c'est increvable, quoi. C'est
comme les Nokia, mais la carte son.
Ah ouais, clairement. En plus, c'était vraiment l'armature métallique. Hein. Je ne parle pas d'un plastique qui ressemble à du métal. Je pense qu'il y a même des coups sur ma carte son. Et celle-là, je l'ai trimballée en live. Hein. Putain, c'était... Oh. Elle a fait ses heures de gloire. Et je crois qu'elle marche encore, même sous Apple Silicon, qui doit l'émuler en Rosetta ou je sais pas quoi. Je crois qu'ils ont sorti un driver qui permet de fonctionner. Mais ça marche encore nickel. Bon, je l'utilise plus, hein, mais elle est toujours. Je pense qu'elle est en réserve en cas où un jour je dois me balader. Voilà. Ok. Donc Cubase, usine à gaz, hein, on parle un peu de ça. Ça date depuis longtemps. Voilà, c'est là depuis longtemps, Cubase. Je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de ça. Moi, de temps en temps, j'en installe un petit comme ça pour voir ce que ça donne. Et puis, je le désinstalle pour voir ce que ça donne. Là, par contre, la courbe d'apprentissage, c'est différent. Hein, on est d'accord.
Oui, mais il y a tellement de fonctionnalités. Un peu trop pour son bien, je pense. Donc voilà, mais après, j'avoue que personnellement, s'il n'y avait pas Logic Pro, je pense que je serais certainement sur Cubase. Mais malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'options. Mais après, voilà, encore une fois, on est plus dans le traditionnel. Il sait que Cubase, dans le multipiste traditionnel, on n'est pas dans une logique de jam comme Ableton Live et Bitwig ou dans un système de pattern de drum comme FL Studio. Donc là, on est dans du multipiste traditionnel.
Ok. Autre chose à dire là-dessus?
Non, je crois que c'est tout.
Ok. Reaper. T'as utilisé Reaper?
Oui. Ah, je les ai tous testés.
Putain. Ouais, pas.
Donc, en fait, au final, la même chose que Cubase, sauf que c'est moins cher. Beaucoup moins cher. Par contre, c'est pareil, il est très puissant, mais c'est pareil, c'est pas très ergonomique. Pour moi, ça, c'est mon interprétation personnelle. Bon, pour ceux qui utilisent Reaper, ils vont peut-être pas aimer ce que je vais dire, mais pour moi, j'ai un peu l'équivalent, l'impression que c'est un peu un équivalent dans Linux. C'est l'équivalent de Linux en dos. Tu peux vraiment le customiser comme tu veux, mais par contre, c'est pas facile à prendre en main, quoi. Donc, après aussi, un autre point positif, c'est aussi les plugins que tu peux développer en JS, en Jesus Sonic. Donc, tu peux développer tes propres plugins. C'est un peu entre les. C'est pas aussi simple qu'un Max4Live, mais c'est quand même plus accessible. Donc, tu peux développer tes propres plugins et c'est pareil, la communauté partage beaucoup de plugins. Donc, ça, c'est un des points forts. Donc, c'est les fonctionnalités, les plugins, la communauté, les plugins customisables. Donc, ça évite de devoir acheter des plugins traditionnels. Parce que t'as certainement quelqu'un qui a fait un plugin qui fait ce que tu veux et qui te l'a partagé gratuitement. Bon, par contre, c'est la complexité, quoi. Donc, et l'ergonomie. Donc voilà, pour moi, ce serait. Voilà, ça, c'était mon ressenti. Après, c'était il y a quelques années. Enfin, quoique, genre, j'ai un ami qui l'utilise actuellement. Et je crois que c'est toujours plus ou moins la même chose, c'est que t'as beaucoup d'options, etc. Quoique, ça peut améliorer, mais c'est quand même. Voilà, c'est un peu mon ressenti par rapport à là-dessus.
Ok.
Bon. Et toi?
Moi, j'avais toujours cru comprendre ou j'avais toujours entendu qu'il était gratuit. Mais en fait, il a jamais été gratuit.
Cher,
en fait.
Oui, t'as une licence à 30 ou 60 euros, mais c'est juste que c'est comme WinRAR, en fait. Il te dit que l'essai a expiré, mais si tu mets OK, j'ai compris, tu peux quand même l'utiliser, quoi. Mais
ah, regarde, la page Wikipédia, il écrit vraiment, contrairement à ce qui est couramment dit sur Internet, Reaper n'est pas gratuit.
Oui.
Ouais, vraiment, hein, on a vraiment l'impression qu'il est gratuit. Quoi.
C'est comme WinRAR, hein, c'est parce que les gens, on est censé utiliser la licence, mais bon, personne ne le fait. Mais bon, pour 60 euros, faudrait jouer le jeu, quoi. Je veux dire, les autres dos, ils utilisent au minimum 200 euros, voire 300, voire 800. Donc, ce serait bien si on avait moyen de trouver 60 euros pour payer le logiciel, ce serait bien quand même.
Ah, il y a un terme qu'on n'a pas encore utilisé aujourd'hui, c'est vrai. C'est MAO, finalement.
En fait, musique assistée par ordinateur.
Voilà, on a parlé de Stan et de Duo. Mais en fait, c'est des logiciels de MAO, finalement. Ouais. Voilà. Pour être plus couramment décrit. C'est même le cœur de la MAO, on va dire. Quand tu fais de la MAO, t'as besoin, entre guillemets, d'un dos.
C'est ton cockpit, oui.
C'est le cockpit. Voilà, ouais, c'était juste pour clarifier aussi ce terme-là qu'on va peut-être entendre quand on veut se décrire en tant que qu'est-ce que tu fais sur ton ordi? Je fais de la MAO. Voilà. Ok. Très bien. Alors moi, je ne connais pas plus, franchement, Reaper. Voilà, je peux pas t'en parler plus. Par contre, il y en a un qu'on n'a pas abordé. C'était Studio One, que moi, j'ai testé un peu oui. Comme Cubase. Tu vois, j'installe, je regarde et je désinstalle. Bon. Et toi, tu as essayé Studio One?
Vite fait, oui.
De Presonus.
Mais pareil, que je crois qu'il y en a quand même beaucoup qui commencent à y passer. Il y en a beaucoup qui commencent à apprécier ça. Donc,
ouais, il a vraiment... En fait, moi, là où j'avais beaucoup d'intérêt, c'était qu'apparemment, il est un peu comme Bitwig quand il est sorti. Parce qu'ils doivent tous faire un effort, tu sais, quand tu sors ton dos tout frais, tout beau. Je sais pas s'il est tout frais, tout beau, mais en tout cas, t'es obligé de faire un effort gargantuesque pour que tout soit compatible avec. Et moi, dès que j'ai un petit problème ou un truc qui marche pas bien sous mon dos et que je me dis mince, tout mon workflow il est pourri, j'ai acheté ce truc et en fait, il fait pas exactement ce qu'il devrait faire. J'essaie de trouver une solution et je crois que j'avais regardé du côté Studio One et ils disaient, oh non, mais nous, on intègre le truc, ça marche nickel. Je donne l'exemple, c'était pour Machine. Machine, qui se dit machiné d'ailleurs, de chez Native Instruments, qui est leur espèce de pad, en tout cas moi j'ai le machine micro, c'est-à-dire c'est le petit qui est en fait un pad MIDI, qui a pas d'écran, etc. Justement, comme il n'a pas d'écran, bah, tu as besoin du logiciel sur ton écran pour afficher qu'est-ce que tu fais sous ton machine. Et tu loads des espèces de banques de samples, et après tu tapes sur le pad et tu fais un peu c'est du beatmaking, on va dire. Moi, je suis pas un beatmaker, mais cet outil me permettait de le faire, d'être beatmaker sans savoir comment ça, enfin, sans le faire manuellement. Tu vois, tu cherches tes presets, puis pouf, 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 ça marche tout seul. Et les pads sont ultra réactifs, c'est vraiment un bel outil. Par contre, l'intégration dans le dos, c'est compliqué. Comme c'est un genre de VST qui te sert un peu d'écran et de pilote. Bah, en fait, il court-circuite un peu ton dos, et si ton dos, il n'arrive pas, par exemple, à se dire, bah, moi, je clique sur les pads, les signaux MIDI sont envoyés dans ce machiné. En fait, après, bah, ce MIDI, il reste dans le VST, entre guillemets. Et en gros, je ne pouvais pas faire en sorte que Bitwig enregistre le MIDI, mais aussi enregistre la piste audio que génère le VST derrière. Donc, soit tu avais deux pistes séparées, et après, il fallait que tu fasses un routage compliqué pour que tu aies une piste audio, une piste. Voilà, et tout un truc. Et ça n'a jamais vraiment fonctionné. Du coup, j'ai abandonné Machiné. Mais avant de l'abandonner, je me dis, attends, Studio One, apparemment, il détecte ton Machiné, tu fais un drag and drop dans une piste et pouf, il te fait tout seul. Ah, super. Alors, j'ai bien sûr installé Studio One. J'ai fait ce qui était dit. Et ça n'a pas marché. Donc, j'ai désinstallé Studio One et j'ai mis mon Machiné de côté. Voilà. Bon, c'est triste. Mais voilà. Parce qu'effectivement, quand je fais de la, alors quand tu jams, ça marche très très bien. Hein. Je peux l'avoir en standalone, la machine, pas de souci. Par contre, quand tu dois faire de l'arrangement et que tu dois mettre sur une piste, sur une trame de temps, tu dois faire en sorte que à cet endroit-là, ton machine, il est déclenché, ton pad, il est déclenché, etc. Pour rester souple, hein, grâce au MIDI. Là, c'est important que tout ton écosystème fonctionne bien. Sinon, tu te retrouves très vite en audio et après, t'es un peu enfermé dans ce que tu avais fait. Voire tu dois refaire ta piste parce que, ah, je vais faire une correction. Bref, des problèmes de producteur musical. Mais voilà. Toi, Studio One, quoi ton expérience?
J'ai testé vite fait. L'interface, c'est la plus jolie pour moi, clairement.
Ouais, clairement.
L'interface, elle est magnifique. Ça, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il fait un peu tout parce que t'as les clips de boucles comme dans Ableton Live et Logic Pro, mais tu peux faire. T'as aussi le séquenceur comme dans Logic Pro et FL Studio. T'as le séquenceur pour les beats. Ça a quand même une logique de travailler de manière traditionnelle comme dans Logic et Cubase. Donc j'ai l'impression qu'il essaie de faire un peu tout. Après, je pense que ça fait pas si longtemps que ça que Presonus l'a racheté. Donc je crois que c'est. Je dois dire que je surveille le logiciel parce que je crois qu'il manque comme des fonctionnalités par rapport à Logic ou à Cubase. Mais l'interface, elle est nickel. Et voilà, je pense que c'est un très bon logiciel. Peut-être juste que vu que je suis déjà sur Logic, j'ai pas trop d'intérêt à changer. Mais je veux dire, si j'avais commencé à travailler là-dessus, peut-être que je régisserais toujours. Donc, je sais pas. Donc, je pense que c'est à regarder, à tester, à voir si ça peut plaire. Mais je pense que c'est tout à fait valable et à surveiller, en tout cas.
Alors, là, je
Juste le.
regarde un petit peu son historique. Alors, je savais pas, mais Presonus a été racheté par Fender. Voilà, ça c'est la première nouvelle. Voilà. Par contre, je vois pas une page spécifiquement dédiée à Studio One, mais plus à Presonus, tu vois. Moi, j'ai une petite chose à dire sur Presonus. Alors, je t'ai déjà raconté mon expérience sur Studio One, mais Presonus, ça m'a un peu dégoûté. C'était ma première carte son que j'ai achetée.
D'accord.
C'était une Presonus. Je pourrais pas te dire le modèle parce que je l'ai jamais pu l'utiliser.
Ah.
C'était encore à l'époque où quand t'achetais sur Internet, t'avais pas encore le remboursement sous 14 jours, les trucs un peu comme ça, hein, faut te dire. Voilà. J'avais acheté un pack Presonus avec un casque, un micro et la carte son. C'était le pack que t'achètes quand t'es débutant. Et celui-là, il était recommandé. C'était celui-là qui était recommandé et l'UR22, d'ailleurs, qui était recommandé en second. Voilà. Mais ce pack-là était génial parce que tu avais vraiment un casque correct, enfin en théorie, un micro correct en théorie et une carte son correcte en théorie. Je branche la carte son, elle ne fonctionne pas. elle n'a jamais fonctionné, sous rien du tout. Donc, je rappelle le constructeur, pas moyen de faire, je sais pas, j'arrive pas à faire jouer la garantie, c'était croix et la bannière. On veut pas me le rembourser, c'était la merde. Donc, assez vexé. Le casque, super, les arceaux en métal. Quand je ferme et je réouvre ma mâchoire, t'as des bruits de métal de l'arceau en métallique dans ton casque. Super. Donc, nul, à chier, autant te dire. Le micro, bof, quoi. Voilà, donc tout était bof. Voilà, dans ce pack-là. Alors, c'est un backpack très bas de gamme, mais très déçu de l'expérience et je suis très vite passé. Peut-être je me suis fait rembourser, je sais plus, mais j'ai gardé le matériel. Je sais plus, bref. En tout cas, voilà, c'était vraiment une très, très mauvaise expérience. Et après, j'ai acheté l'UR22 qui est increvable. Donc après, c'était mon expérience à la con. Mais depuis, je fais plus jamais confiance. C'est la seule marque qui m'a vraiment déçu de ce point-là. Maintenant, effectivement, en 2025, ouais. Si j'ai ce problème-là, je peux te dire que c'est renvoi direct et je veux même plus en entendre parler. C'était pas le cas à l'époque. C'était pas aussi facile.
Après, c'est toujours le souci, c'est que tu peux avoir une mauvaise expérience qui n'est pas représentative
Ah non, que pas du tout. Non, non, parce que je vois encore que beaucoup de gens se disent « Ah, mais c'est génial, les dernières Presonus, tout ça, tout ça. » Moi, je peux plus, voilà. Mais j'ai quand même essayé Studio One, parce que ça promettait, etc. Mais pareil, promesse, et puis derrière, je fais exactement ce qu'ils prétendaient faire, d'automatisme et tout. Et en fait, je galérais autant pour faire marcher mon machine... micro sur Studio One que sur Bitwig au final.
Mais t'avais pas à installer quand même peut-être qu'il fallait installer un script, non?
Oui, non, mais j'ai suivi 50 000 tutos pour le faire, t'inquiète.
D'accord.
C'est juste, en fait, moi je voulais à la fois récupérer le MIDI et l'audio, multipiste, puisque en fait t'as différentes pistes. Bref, Bitwig le fait, y a pas de souci. Mais encore une fois, moi je veux pas avoir 50 000 pistes, tu vois, je veux avoir à la limite une piste MIDI et une piste audio, mais pas 50 000. Et il faut que ça marche bien du premier coup. Enfin, il faut pas que ça marche bien du premier coup, mais il n'y a pas besoin de faire un setup quand je lance mon projet, quoi. Voilà, c'était un peu l'idée. Bitwig le faisait bof. Studio One promettait de le faire en glisser-déposer. Le glisser-déposer, oublie. Même en installant ce que tu veux, oublie. Ça marchait pas. Donc, voilà. Mais c'est pas grave. De toute façon, j'aurais dû revoir tout mon workflow de travail juste pour ça, en fait. Mais en fait, au final, je m'en suis très, très bien passé. Et puis, au final, je fais de la musique sans. Ouais, y a pas de souci. Ok, on parle pas de tout ce qui est GarageBand, BandLab, t'en as un petit peu évoqué, mais c'est effectivement...
Ouais, c'est des versions light, c'est accessible, ouais. C'est plus accessible, c'est pas des dos complets non plus.
Voilà.
Donc c'est bien comme une introduction en fait.
Ok. Ok, on a parlé un peu chacun de nos dos, Logic et Bitwig. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Pourquoi t'as choisi Logic? Pourquoi j'ai choisi Bitwig? On peut parler du point essentiel d'un dos. Qui est finalement son workflow.
C'est ça.
Voilà.
Et ça peut aussi les raisons qui nous amènent à choisir, à dire comment on choisit son dos.
Mm-hmm.
Je pense que moi, mon opinion là-dessus, c'est que tu aurais le dos parfait avec toutes les fonctionnalités. Même si le dos, il a toutes les fonctionnalités que tu veux, il est parfait, etc. Si tu n'aimes pas le workflow, tu n'aimes pas le workflow. Donc, on pourra donner tous les arguments que tu veux. Tu ne changeras pas parce qu'il faut trouver un dos avec le workflow qui te convient.
Ouais.
Moi, j'ai essayé plusieurs. C'est celui de Logic qui me convient le mieux.
Ouais.
Toi, c'est Bitwig. Donc après, il y a peut-être aussi l'expérience. On a peut-être eu des déceptions, des petits problèmes ou quoi. Mais je veux dire, ce qui est vraiment important, c'est le workflow.
Ouais, c'est le workflow.
Parce que ton seuil de tolérance, il va varier en fonction du workflow. Si le workflow te plaît, même s'il y a des bugs ou il y a des trucs qui manquent, tu vas dire, ouais, mais je m'en fous, j'aime quand même ce logiciel-là. Donc du coup, comment le choisir? Je pense qu'il n'y a pas de secret. C'est les tester. Télécharger les versions d'essai, tester pendant 2-3 jours chacun jusqu'à tomber sur un qui marche. Je pense que...
Effectivement, voilà. Ouais. Alors oui, il y a toujours le... Ouais, viens, on fait de la musique, nous on utilise celui-là, alors utilise celui-là aussi. Ok, argument valable. Mais si on commence à s'arracher les cheveux et qu'on se dit, non mais écoute, j'ai des boutons dès que j'ouvre ce logiciel. Quand je parle des boutons sur la figure, ou sur le corps, parce que oui, tu as des boutons aussi sur ton interface. Mais si ça te répulse et que ça t'empêche de faire de la musique, prends même un GarageBand, pourquoi pas. Voilà, je sais qu'il y a des artistes qui ont développé leur musique sur GarageBand en mobile quand ils prenaient le taxi et puis ils ont fait des tubes. Ouais. Voilà. C'est pas ça C'est vraiment, il faut que le do soit pas une purge à utiliser, ça c'est sûr. À l'époque, l'année dernière, donc quand on a fait notre collab, effectivement, il y avait cette question de, ok, maintenant on commence notre projet musical tous les deux. Moi, j'étais encore sur Beatwig, etc. Mais on avait, toi aussi, on avait ce moyen maintenant de se dire, ok, on est encore à peu près au début de notre projet musical. Il est encore temps de changer maintenant. Mm. Bon, il pourrait encore être temps de changer aujourd'hui, tu me diras. Mais voilà. On va commencer à prendre des compétences que ça serait dommage de tout mettre de côté pour après changer de dos, même si c'est pas forcément le cas. Mais voilà, toi t'as fait le choix de changer. Moi je me suis dit bah tiens viens, je vais aussi sur Logic hein, parce que j'ai acheté le pack comme toi. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé, j'ai pas pu. Voilà. Donc je suis resté sur Beatwig. Ouais.
Bah le truc c'est que par exemple Ableton Live, moi je parle pas du logiciel, je ne le critique pas, mais moi, c'était une purge d'utiliser pour moi, parce que j'aimais pas le workflow, ouais, il n'était pas adapté à moi. Mmh. J'ai lu le manuel en intégralité, donc il faut quand même le souligner. D'accord. J'ai fait des formations et je me sentais quand même pas à l'aise. Logic, ça a été la révélation pour moi, et pas encore une fois parce que c'est le meilleur logiciel du monde, etc. C'est juste parce que le workflow, l'ergonomie, enfin, ça me convenait mieux. Là, en 2-3 jours, j'ai pris le truc en main, parce que même si je galérais un peu, je veux dire, quand on avait commencé à faire notre collab, bah, j'ai commencé sur Logic alors que je l'avais pas utilisé avant. J'ai ouvert le logiciel et j'ai commencé à travailler dedans alors que je l'avais jamais utilisé. Alors qu'Ableton, bah, même en ayant lu intégralement le manuel, etc., bah, il y a des trucs, j'ai du mal. Tu vois, comme le routage et d'autres trucs, donc voilà.
Ouais, bah ok.
C'est vraiment une question de trouver chaussure à son pied, en fait.
Et est-ce que ça nous a posé problème pour collaborer? De fait d'avoir deux, voire même trois logiciels, puisqu'au début, tu étais sur Ableton.
Non, alors peut-être que c'est plus simple dans une certaine mesure quand tu es dans un groupe ou quoi, que si tous les membres travaillent sur le même logiciel, c'est peut-être plus simple à s'échanger les projets. Mais je veux dire, en général, vu que tu en as plein qui utilisent, tu as plein d'artistes qui utilisent des logiciels différents, de toute façon, en général, on travaille sur base de STEM, donc c'est-à-dire sur des bouts de fichiers WAV exportés, des fichiers audio qu'on s'exporte. On s'exporte les pistes en audio et on se les échange comme ça. Donc, parce que de toute façon, même si tu as le même DAW, il faut encore avoir les mêmes logiciels, les mêmes plugins VST aussi, en fait. Donc, du coup, tu pourras jamais avoir le même setup à 100%, la même installation qu'un autre artiste. Donc, ça peut faciliter peut-être dans une certaine mesure. Mais en général, de toute façon, on travaille en audio. Donc, ça ne devrait pas impacter. Il faut vraiment travailler avec un logiciel avec lequel on est à l'aise.
Voilà. La base, ça sera le fichier audio, hein, qu'on appelle STEM aussi, si c'est une piste audio complète avec des effets et tout, mais aussi le fichier MIDI, puisque des fois effectivement tu te dis j'ai fait une mélodie, ouais, mais moi je veux pas ton fichier audio, je veux la mélodie. Tu peux envoyer aussi le MIDI, puis après comme tu as dit, essaye de reproduire dans peut-être le même VST, mais pas forcément, tu vois. Par exemple, tu dis ok, moi j'aime bien ta mélodie, mais ton instrument j'ai mieux. Ok, je t'envoie la mélodie, puis je la colle sur mon instrument en VST. Mm. Ou alors, rien qu'en la voyant, je la joue sur une vraie guitare ou sur un vrai piano. Et puis, tu peux l'échanger comme ça. Donc, il y a suffisamment de standards maintenant. Et il faut aussi souligner que Studio One et Beatwig se sont mis ensemble pour créer un standard de fichier de projet universel. Il faut le savoir. Pour l'instant, il y a que eux deux. Peut-être ça a évolué depuis, mais il n'y a que eux deux qui le supportent entre eux. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit, tiens, Studio One, ça peut être une bonne alternative, puisque tous mes projets sont compatibles avec. Mais voilà, après, je ne sais pas ce que ça va donner. Comme Ableton a aussi fait son standard d'interconnexion qui s'appelle Link, c'est ça ? Ableton Link ?
Oui, pour synchroniser différents appareils sur le tempo.
Voilà, exactement. Voilà, c'est... synchronisation, mais Beatwig est compatible avec, donc pareil, on peut synchroniser ça si on veut faire du live entre différentes machines, peut-être à distance, j'en sais rien, bref. Il y a un certain nombre d'options comme ça, et franchement, plus on avance dans le temps, et plus moi, j'ai quasiment plus aucun mal à me dire, ce truc, il marche que avec ce dos, tu vois, enfin, je pense que je me pose même plus la question, en fait, hein. Presque tout marche avec tout. La seule particularité, c'est, pareil, comme tu disais avant, certains DAW intègrent des choses, et quand ils intègrent des choses, je sais qu'Ableton a des outils ultra favoris de certains, où ils vont se dire, moi j'utilise l'outil d'Ableton et celui-là, je le trouve nulle part d'autre. Bon, après tu vas me dire, il y a beaucoup de VST qui disent ou qui prétendent dire, vous aimiez cet outil d'Ableton, nous on l'a en VST, t'inquiète, tu peux l'avoir où tu veux. Ça s'appelle pas pareil.
Ça, tu le fais bien de le préciser parce que je pense qu'il y a un petit truc à préciser pour certains logiciels comme Ableton Live ou d'autres qui fonctionnent avec des systèmes de pack ou d'extensions ou de plugins qui leur sont propres. C'est que si jamais un jour vous voulez changer de DAW pour une raison X ou Y, c'est que vous perdez tout. Moi, comme Ableton Live, j'ai acheté plein de packs, j'ai acheté des plugins Max for Life. Voilà, j'ai dû leur dire au revoir quand j'ai changé de Logic, quand j'ai changé pour Logic.
C'est pour ça que moi, Bitwig ne propose pas des trucs en plus payants chez eux. Ils intègrent quasiment tout. À un moment donné, ils voulaient proposer, ils avaient toute une gamme d'outils spectral qu'ils ont proposé, mais que si tu achetais la version un peu plus chère, je crois. Ils proposaient le pack à part. Ils se sont pris une tollée. Et puis ils l'ont plus fait, ils l'ont intégré dans l'abonnement normal en fait. Déjà que il fallait payer tous les ans le logiciel plus ou moins si tu voulais avoir les évolutions. Et là, en plus qu'ils font payer tous les ans pour avoir les évolutions, ils te proposaient une évolution payable à part. Donc non, ça n'allait plus. Tu vois. Je peux comprendre que t'achètes one time ton logiciel 200 balles et que tu payes plus rien pendant 5-6 ans, et qu'après ils proposent un pack spectral, je sais pas quoi, ou même le modular, hein, ils auraient pu proposer le modular à part. D'ailleurs, ça aurait pu être même plus intelligent de se dire, ceux qui n'utilisent pas de modular, ils n'ont pas besoin d'acheter le modular, point, ciao. Et puis ça leur coûte même moins cher, on va dire. Voilà, parce que c'est très spécifique le modular. Bon, il s'est avéré que c'est ultra intégré partout et que c'est génial, mais voilà, même si tu fais pas de modular. Voilà, l'idée c'est, oui, c'est très dangereux si tu pars dans une autre plateforme. D'où moi, je préfère maintenant acheter mes packs plutôt en VST ou en trucs qui sont compatibles. Déjà multiplateforme Windows et Mac, parce que c'est pas impossible qu'un jour je revienne sur PC. Je sais que les PC maintenant arrivent aussi sur des architectures comme Apple Silicon, hein, les architectures ARM. Donc il est pas impossible que Windows s'améliore aussi ou change un peu de structure, aille plus dans le monde un peu Unix, ce genre de choses. Je commence déjà à donner des indices dans ce sens-là. Donc, on verra. Peut-être qu'un jour, ça sera différent. Et moi, je serai content parce que mon Bitwig sera multiplateforme. Voilà. Et mes VST aussi. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais c'est vraiment du geekisme. Vraiment, c'est très geek, hein, de se dire, on veut rester souple et tout. C'est très très bien aussi d'avoir son Logic sur Mac si t'as un Mac et que tu veux rester sur Mac, pas de problème. Franchement, pas de souci avec ça. Ok, donc workflow, tester les démos, les versions d'essai, etc. Ne pas s'arrêter au dos qui est livré avec ton clavier MIDI. C'est pas parce qu'il est livré avec qu'il marche mieux avec. Voilà.
Oui.
Voilà, voilà. Et puis en plus maintenant les autres dos le font aussi. Hein. Je crois que Studio One a une version un peu gratuite. Bitwig a aussi la version 8 track. Voilà. Enfin, ils ont tous un peu, je crois. Je sais pas si Cubase le fait, mais tout le monde un peu le fait. Je sais que maintenant Pro Tools
Je crois que c'était le premier à le faire même d'ailleurs.
Ah voilà.
C'est juste que Ableton a été beaucoup 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 plus agressif avec ça, mais Cubase et ça a été le premier à faire ça, il me semble.
Ok. Voilà. Donc en résumé, il y a pas de meilleur dos. Hein. On n'a pas fait un classement du meilleur au moins pire ou au pire. C'est juste il faut vraiment que ça fitte le besoin. Que ça soit un besoin du groupe qui l'adopte ou le besoin du workflow qui est plus confortable ou parce que Pro Tools parce que t'as un studio avec des cartes son professionnelles, tu prends Pro Tools, hein. Il n'y a pas de secret. Voilà.
C'est une question de workflow et des fonctionnalités dont on a besoin parce qu'il n'y en a pas un qui a toutes les fonctionnalités. Il y en a qui sont très, très, très complets du genre Cubase ou Logic ou Reaper, mais il y a des fonctionnalités quand même qui manquent. Donc, ça dépend aussi des fonctionnalités que vous pourrez avoir besoin. Il faut regarder. Donc, voilà. Et le workflow, effectivement. Donc, la première impression que ça vous fait, si vous vous sentez à l'aise, si vous trouvez ça agréable de travailler dedans. Parce que si vous subissez. Parce que voilà, j'en connais, comme je n'initie à la musique électronique, des amis ou autres, ils étaient convaincus qu'ils n'aimaient pas la musique électronique. Et en fait, une fois qu'ils ont trouvé le bon dos, je dis écoute, essaie plutôt celui-là alors pour voir. Puis ils étaient un peu réticents, puis après ils ont dit je vais quand même essayer quand j'ai un peu le temps. Et puis là maintenant ils aiment bien parce que c'était vraiment une question de trouver le bon dos.
Ouais, clairement. Enfin, franchement, le bon outil adapté à la. Ouais, je dirais pas au bon style musical, mais je peux faire tout avec
la manière de travailler.
Mais voilà, la manière de travailler et aussi le plaisir, hein, parce que ces outils maintenant intègrent aussi un côté satisfaisant du clic ou de trouver tes outils ou les moteurs de recherche satisfaisants. Voilà, il y a beaucoup, je veux dire, voilà, le côté interface agréable est maintenant beaucoup mis en avant. Tu parlais de Studio One avant, qui a une super interface. Oui, effectivement. Tu regardes des captures d'écran, t'as envie d'y aller, quoi. Après, voilà. Tu regardes Logic, t'as pas envie d'y aller.
Mais si.
Non, j'en sais rien. Non, c'est... Voilà. Moi, franchement, Ableton, je sais pas ce que tu penses de l'interface d'Ableton au niveau design. Je la trouve un peu datée.
Mais il y en a beaucoup qui trouvent, voilà, j'allais dire, il y en a beaucoup qui trouvent ça vieillot, parce que c'est fort carré, c'est pas, ça fait pas très web 2.0.
Ouais, c'était 2010, quoi, l'ambiance, tu sais, mais... plein, là, le design, flat design, là, tu sais.
Alors moi, honnêtement, ça ne m'a pas dérangé parce que justement, FL Studio, c'est un peu l'opposé. Ça fait, c'est tellement coloré, rond, etc., ouais, que ça fait un peu jouer, limite,
ouais,
pour moi. Mais après, moi, ça ne me dérange pas. Là, moi, c'est vraiment le workflow d'Ableton qui ne me convient pas. Donc, c'est même pas une question de design ou quoi. C'est l'ergonomie en soi ne me parle pas. Donc, c'est pas.
Voilà. C'est comme on disait en intro, on va y passer des nuits dans ce logiciel. Donc,
bah, on pourrait argumenter. Bon, hein. Voilà. Ouais, on pourrait argumenter pendant des heures.
Ouais.
Et...
ouais, ouais. Après, je pense qu'il y a aussi moyen. J'ai vu, hein, il y avait des moyens de changer des couleurs et des trucs dans les dos. Hein. À l'époque, ça me faisait tellement chier.
Ableton, t'as que non, t'as justement.
Non.
Ah.
Ouais, mais t'as des, il y a des hacks en fait externes que tu peux activer pour qu'ils forcent le changement de couleur. Ouais, ouais. Alors c'est pas intégré, c'est vraiment un truc que ça permet de changer les couleurs. Ouais. J'avais vu ça à l'époque justement. J'en avais tellement marre de cette interface qui était, en fait, tu sais, moi j'étais dans les interfaces dark un peu plus parce que quand t'es en live et que t'as ton écran qui est ultra éclairé, c'est complètement débile, quoi. Donc j'avais besoin d'une interface dark et je sais que Bitwig, lui, il était dark de base, presque. C'était ça qui était bien. Mais avant ça, je cherchais un moyen de le rendre plus dark et il n'y avait pas l'option, en fait. Et je sais qu'il y avait moyen de changer un peu plus les couleurs, de plus personnaliser avec des bugduages externes qui rendaient la chose encore plus stable, hein, bien entendu. Mais non, il y a des hacks à droite à gauche, quoi. Ça, c'est un détail. Bref, ok, bah écoute, top. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là, en tout cas pour la discussion de dos. Moi, je dis, si quelqu'un qui nous écoute a des questions, on va dire, autour de ça, bien sûr, on aura tous les détails dans la description de ce podcast, sur toutes les plateformes sur lesquelles on le délivre. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un message, que ce soit Instagram, le mail qu'il y a sur nos différents sites. Toi, Linvi, on peut te retrouver où?
Sur Instagram, @linvimusic. Donc, Linvi.
Ça s'écrit comment?
Linvy.
Okay.
Donc, Linvi sur toutes les musiques de plateforme, et Instagram. Donc, voilà, simplement. Et sur mon site web, linvi.com, vous avez aussi une possibilité de m'envoyer un message, un email.
Ok. Voilà, cool. Moi, on peut me retrouver sur mwtprod.com. Donc voilà, j'ai pas besoin de les play puisque finalement MWT c'est déjà play. Et sinon sur Instagram PKMWT, voilà, ça s'écrit comme ça se prononce. Et puis sur toutes les plateformes de streaming pour ma musique aussi. Et puis Entre deux notes est un projet autour de ce collectif Music We Trust MWT. Et donc là c'est musicwetrust.com. Voilà, là c'est comme ça s'écrit en anglais. Voilà, ceux que ça intéresse. Et dessus, il y a un troisième larron qui est Osinji, qui est aussi un musicien qui nous accompagne dans l'électro aussi, nous accompagne dans cette aventure de ce collectif qu'on a formé à trois pour l'instant. D'ailleurs, qu'on a formé suite à l'épisode 0 de ce podcast où on en a discuté. Donc ceux qui veulent écouter l'épisode 0 qui est bien, hein, mais c'était vraiment notre proto-podcast, donc finalement, bon, voilà, on le publie quand même parce qu'il est cool. Voilà, écoutez-le. Mais ici, c'est l'épisode 1, effectivement. Et on serait ravis de vous retrouver tous ceux qui nous écoutent, au prochain numéro, numéro 2, dont le sujet n'est pas encore défini, mais qui sera certainement enregistré le mois prochain. Voilà, voilà.
Parfait.
Enfin, il reste plus qu'à nous dire
à bientôt.
Au revoir. À bientôt. Et puis, merci de nous écouter. Allez, ciao, ciao.
Ciao, ciao.